Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour ce 7e service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix des Grands Prix tracé dans les rues de Monaco, étape mythique du championnat du monde où s'imposer révèle la valeur des pilotes qui entrent définitivement au panthéon des champions. Malgré tout, si le cadre et l'ambiance est unique au monde à Monaco, les courses se jouent souvent dès les qualifications et le spectacle en course se doit souvent aux éclats de carbone des F1 qui se sont déchiquetés le long du rail. Depuis le début de saison, les courses nous ont réservé leur lot de dépassements et d'actions, même si on oubliera l'Espagne, et l'on pouvait légitimement s'attendre à une course folle où tous les espoirs étaient permis afin de réaliser le grand casse de l'année. Cette semaine, nous aurons la chance de bénéficier d'un envoyé très spécial qui était à Monaco pour les qualifications en la personne d'Enzo. Alors sans plus attendre, passons aux choses sérieuses et accueillons mes deux compagnons de route. Bonjour Shinji, bonjour Enzo.
Bonjour.
Bonjour à tous. T'es un vrai Victor Hugo de la F1, toi.
Ah mais merci.
C'est beau ce que tu dis.
Hey, en une prise.
Waouh, ouais.
Alors, c'était bien Monaco, Enzo ?
Très bien.
Ouais, il faisait beau ?
Trop chaud.
Trop chaud,
ah, parce que... C'était chaud, ouais.
Nous, on t'avouera, on n'a pas vu les qualifs, donc il va falloir que tu nous informes.
Hein. Plus dur en suivant les essais, c'est quand on se trouve face à la piscine et qu'on a envie de plonger dedans.
Ah bah il y en a qui ont essayé. Hein. Alors, on commence tout de suite avec le...
On en reparlera.
Ah ouais, là va falloir qu'on s'étende, on va être obligé. On commence avec le traditionnel désormais chiffre inutile de Shinji. Un petit chiffre qui n'est pas forcément très utile pour la Formule 1, mais franchement très très utile en société.
Vous allez apprendre plein de choses cette semaine. Cette semaine.
Pour à fond ton 2039 ou je sais pas comment, j'ai pas pu le replacer. Hein.
Ah oui, moi
pourtant,
j'ai pu.
J'ai fait différents dîners, mais non, j'ai pas pu.
Le chiffre du jour, c'est 19.
Oh.
Et ce chiffre n'est pas le débit en litres secondes des pompes à essence pour les ravitaillements, qui est, il faut le savoir, de 12,1. C'est normé par la FIA.
Donc
c'est utile à savoir, hein, parce que l'an prochain...
Ça servira plus.
Voilà.
Est-ce que par hasard, c'est pas la consommation de la Ferrari au kilomètre ?
Ça pourrait.
En tout cas, en Espagne, non. Oui.
Ça n'est
19.
Pas. 19. Eh bien, 19, c'est le pourcentage de monégasques à Monaco. Il y a 6 000 monégasques. En comparaison, il y a 10 000 Français et 6 400 Italiens. Ainsi que 126 autres nationalités qui, comme chacun sait, sont tous attirés dans cet état par la splendeur du paysage, ses merveilles architecturales, les événements sportifs et culturels qui s'y déroulent, et pas du tout pour de basses raisons fiscales.
C'est intéressant comme statistique. Mais... Sachant que le nombre de Français ne pourra plus augmenter.
Oui, oui, un Français, ça ne vaut pas le coup fiscalement.
Non, tu ne peux plus maintenant. Tu ne
ah
peux
oui.
plus.
Ah bon tu... Tu, oh, Enzo, il a essayé.
Non, mais tu ne peux plus devenir résident fiscal ouais. monégasque quand tu viens de
si
France.
Si t'es français, sauf, tu paies tes impôts.
Tout à fait, sauf si on passe par un autre pays et tu restes un certain nombre d'années, mais directement voilà. France, France-Monaco, c'est plus possible.
Voilà.
Non, je ne suis pas renseigné.
Mais vous savez que...
On en a vendu des bouquins.
Mais vous savez que le chiffre 19, c'est un chiffre qui est important pour Monaco. Le hasard a voulu que moi aussi, j'ai fait une petite recherche et je sois tombé sur le chiffre 19.
Non, c'est juste qu'en fait, je lui ai juste donné le chiffre. Je lui ai pas dit ce que ça voulait dire, mais je lui ai juste dit le chiffre comme ça. Et il a cherché.
En petit fourbe que je suis allé sur Google et j'ai découvert qu'en fait, 19, c'était un chiffre qui était important à Monaco parce que le 19 novembre 1949, le prince Régnier III devenait prince de Monaco. Et le 19 avril 56, c'était le mariage de Régnier avec Grace de Monaco. Enfin, la future Grace de Monaco.
Grace Kelly.
Voilà, Grace Kelly, tout à fait. Donc voilà, moi au départ, je pensais que c'était ça, qu'il allait nous sortir. Ouais, c'est... Voilà, mais en fait, non.
Ouais, on me dit numéro 19, je pense au numéro de Choumi.
Au numéro de Choumi ?
Ah ouais, 92.
Ah ouais.
Ah ouais, ouh.
Ah, moi je suis habitué au numéro 1, je suis désolé.
Bah oui, mais avant d'être numéro 1, il faut avoir un autre numéro. Et qui c'est cette année, le numéro 19 ? Ah ah, le piège ?
Numéro 19, oula.
Sans tricher, sans regarder.
Numéro...
Il n'y en a pas !
Mais oui, il y en a. Ah non, il n'y en a pas, oui. Et bah oui, c'était pas l'équipe Honda, puis qu'ils ne pouvaient pas prendre les numéros, donc ils ont pris 22-23.
Pourquoi il n'y en aurait pas ?
Parce qu'à la base, c'était l'équipe Honda qui avait le numéro 18-19, parce qu'ils avaient fini 9e du championnat. Et que juste avant, je crois que c'est deux semaines avant la saison, comme ils ont considéré que l'écurie Brown n'était pas à la suite de Honda, mais était une nouvelle équipe, ils ont dû changer les numéros. Et comme il était trop tard pour que Force India prenne les numéros 18-19, ils ont gardé les numéros de Force India, donc 20-21, et le 22-23 ont été pris par les équipes de Brown.
Bonne réponse, bravo.
Oh la vache, qu'est-ce qu'on est bon.
Bonsoir.
Mais là, je peux vous dire que là, il y en a un qui va être très très bon. Parce qu'on va vous diffuser un extrait différé. Parce qu'on a appelé Enzo pour les cliffs. Et on l'a eu en direct de Monaco. Donc je vous propose tout de suite qu'on retrouve Enzo en direct de Monaco pour la grille de qualification.
Eh bien, salut Dino, salut Sinji. Et oui, je me trouve actuellement donc sur le bord de la piste de Monaco, juste en face de la piscine. Tribune N pour ceux qui connaissent. La première séance a commencé par une erreur du pilote brésilien de la Scuderia qui, heureusement, a juste endommagé donc le museau avant et a pu repartir par la suite. Donc les disqualifiés donc de cette première partie de séance sont les deux Toyota, les deux BMW et surprise également parce qu'il est parti également à la faute au niveau de Mirabeau, le champion du monde en titre, à savoir Lewis Hamilton. Bon, il est vraisemblable que ces mécaniciens feront peut-être profiteront pour intervenir sur sa voiture, donc c'est pas impossible que du coup même il parte un peu plus loin sur la grille. Bon, bah je vous rappelle tout à l'heure pour à la fin de la deuxième séance.
Merci Enzo. Alors on peut peut-être revenir sur d'abord effectivement bravo pour Enzo qui a été visionnaire puisqu'il avait prédit qu'Hamilton changerait de boîte. Moi je dis bravo Enzo.
Ouais, bravo.
Joli travail.
Merci.
Petite surprise les Toyota.
Bah oui.
Oui.
Elles avaient déjà été en méforme en Espagne, mais là c'est même plus la méforme là, ils touchent le fond
voilà.
On a l'impression qu'ils ont pris la voiture de BMW et qu'ils ont changé les couleurs.
Un peu.
D'ailleurs, BMW, ça fait pas mieux.
Mais bon, c'est quand même inquiétant. Moi, je trouve de voir deux gros constructeurs avec de grosses ambitions quand même en ce début d'année qui sont, osons le mot, mais complètement largués, quoi.
En moins d'un mois, on est passé de voiture capable de gagner à chicane mobile.
Ouais, tout à fait. Mais bon, ouais. Ça laisse de l'espoir pour Brown Grand Prix. On a des chances peut-être que Brown Grand Prix se loupe et que tout le monde remonte.
À noter que Glock est parti des stands.
Oui, c'est vrai. Ça, Enzo, tu l'as pas prédit ça.
Ah, il pouvait pas le savoir.
Désolé.
Ouais, bah quand même, il aura pu prédire qu'il y avait un petit problème. Et s'il a réussi à prédire le changement de boîte,
Je pense que Glock est pas parti pour un, il est pas parti pour un problème. C'est justement parce que c'est moins risqué à Monaco.
Oui, voilà.
De partir des stands plutôt que de partir même en queue de peloton, quoi.
En plus, là, il partait à côté d'Hamilton. Alors par contre, la stratégie de départ d'Hamilton, il est parti, alors tout le monde devant, ils ont rempli le réservoir, ils faisaient tous 700 kilos. Lui, il est parti avec une stratégie identique au leader, donc un premier arrêt assez léger.
Ouais.
Et j'avoue, j'ai pas pigé. D'ailleurs, ce qui est rassurant, c'est qu'Alain Prost non plus n'a pas pigé sur Europe 1.
C'est vrai que c'est assez bizarre.
Eh ben, on a fait tout le tour sur cette Q1. Et donc là, tout de suite, on retrouve, puisque là, je crois qu'il nous attend, puisque la Q1 vient de, là, et la Q2 vient de se terminer. Donc, on retrouve tout de suite Enzo en direct de Monaco pour la Q2.
Oui, donc c'est encore, donc la Q2 vient de se terminer. Bon, la surprise de la fin de Q1, c'était d'avoir encore les deux Force India, les deux Toro Rosso. Donc, on se doutait que ces deux écuries ne passeraient pas la Q2. Effectivement, c'est bien le cas. La question était qui serait le plus mauvais des 11 restants. Bien évidemment, c'est notre petit junior à nous qui nous fait la joie d'échouer aux portes de la Q3. Et donc, en terminant à une 12e place, juste derrière Buemi, qui fait quand même un superbe chrono et place Toro Rosso à la 11e place. Ensuite, les deux... Non, John Carlos Fisichella, Bastien Bourdais, belle 14e place. Et 15e place pour Adrien Sutil. La Q3 va pas tarder de commencer, donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure.
Merci Enzo, on te retrouve dans une dizaine de minutes. Alors, belle surprise que de voir les Toro Rosso et les deux Force India qualifiés comme ça direct dès la Q2.
Oui, est-ce que c'est vraiment eux qui ont progressé pour se hisser en Q2 ou bien est-ce que ça vient plutôt des contre-perfs des Toyota?
Bah, c'est vrai qu'il y a les contre-perfs de Toyota et de BMW, mais bon... Ils sont quand même devant à la régulière, quoi. Il n'y a pas eu de circonstances particulières qui ont fait qu'ils étaient devant.
Non, c'est certes, mais je veux dire, est-ce que eux ont amené une voiture un peu évoluée? Est-ce que leur voiture a évolué? Je suis pas énormément J'en suis pas persuadé. Mais bon, ça veut pas dire grand chose. C'est surtout un circuit de pilote. Et bon, bah,
c'est vrai qu'on est à Monaco.
Pilote costaud dans ses écuries. Donc.
Mais en plus, hein, moi, je sais que bon, j'ai pas vu la course en direct. Je l'ai entendu à la radio sur Europe 1. Et il y avait une bonne analyse de Prost qui disait qu'apparemment Monaco c'est un circuit pas aérodynamique mais mécanique.
Tout à
donc,
fait.
Donc peut-être qu'effectivement les Force India sont beaucoup plus efficaces mécaniquement avec notamment tout le châssis McLaren, enfin toute la partie de Mercedes. On a vu d'ailleurs que les McLaren avaient bien marché pendant le week-end. Donc peut-être que ça vient de là aussi. Il y a toute l'activité de Mercedes sur le train arrière, les suspensions, etc. Peut-être que ça a aidé justement la Force India à s'améliorer.
C'est ce qui explique aussi le regain de forme des Ferrari.
Ouais.
Je pense qu'elles sont encore un peu en retrait au niveau aérodynamique.
Et qui pourrait donc expliquer la baisse de forme de Red Bull.
Exactement.
Il qui est plutôt une voiture très aérodynamique où l'aérodynamique a une part importante.
Yes.
Shinji, un petit commentaire sur cette deuxième partie de qualif? Shinji, regarde le tennis, il s'endort.
Je viens de le réveiller.
Il faut savoir que là, Shinji est sans doute bloqué sur RolandGarros.fr et qui regarde les résultats.
Non, mais il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, c'est tout.
Oui, non, vas-y, tu dormais, d'accord. Allez, bonne nuit, Shinji.
En plus, c'est qualif, alors...
Alors, on me dit dans la régie là qu'on doit retrouver tout de suite Enzo qui est à Monaco parce que la pole vient de tomber. Allo Enzo, tu es là?
Eh oui, donc là, le Q3 vient de se terminer. On y a tous cru dans les gradins, mais malheureusement, la Ferrari de Kimi Raikkonen échouera à la deuxième position. Il a tenu la pole pendant environ 30 secondes avant que Jensen lui prenne pour 25 millièmes de seconde, donc 2 centièmes, donc 1-1. En troisième position, on retrouve l'autre Brown Grand Prix, celle de Barrichello. Quatrième, Sébastien Vettel. Cinquième, la deuxième Ferrari, donc beau regroupé des Ferrari quand même. Je pense qu'on n'avait pas vu ça depuis le début de la saison. Sixième, Nico Rosberg, qui avait, je vous le rappelle, fait le meilleur temps de la Q1. Tandis que c'était Raikkonen qui avait fait le meilleur temps dans la Q2, je ne l'avais pas signalé. Septième position, Aiki sur la McLaren, rescapé. Huitième, Weber sur la deuxième Red Bull. Neuvième, Fernando Alonso. Et dixième, dernier de cette Q3, Nakajima sur la Williams. À
merci.
Vous, Dino. À
merci. Vous, merci Enzo. Et puis, bonne course. Hein. On n'aura pas en direct, mais bonne course quand même. Et puis, on se retrouve ensemble mardi ou mercredi pour enregistrer l'émission. Donc, nouvelle pole position pour Button. Ça fait la septième. La quatrième Grand Prix et la 74e de Mercedes en tant que motoriste. Merci statf1.com.
Non, mais la surprise, et... c'est pas tant la pole que ce qu'il y a derrière.
Tu veux dire la deuxième place?
Non, la troisième.
Il n'y a pas que ça. Hein.
J'ai été un peu surpris. Étant donné que Kimi, quand même, avait fait le meilleur temps dans la Q2, je pensais que Button, du coup, avait une voiture très légère pour pouvoir réussir la pole. Et j'étais assez déçu en voyant que finalement il était plus lourd que Kimi, quoi. Visiblement et ça sentait peut-être un peu il avait pas forcément cul de Button.
Bah, pourquoi faire?
Mais c'est vrai, pourquoi
faire. c'est limite, il a même pas besoin de courir et il est déjà qualifié, non mais. Il fait un tour avec le frein à main, il est déjà devant tout le monde, là. C'est bon, faut arrêter. Mais c'est vrai que la surprise, elle vient des pilotes Ferrari. Raikkonen deuxième qui a failli avoir la pole, comme tu l'as dit, pour 25 ouais. millièmes. Et puis Massa qui est cinquième. Je crois que c'est la meilleure qualif cette saison de Ferrari. En même temps, difficile de ne pas faire mieux. Hein.
On peut quand même féliciter la cinquième position de Massa. Féliciter ouais, voilà. Massa pour sa cinquième position.
Oui.
Parce que dans son premier tour lancé, quand même, il a failli se mettre méchamment en l'air. Il a touché le mur, mais... Bon, on a vu dans la Q1, moi j'étais pratiquement devant à l'endroit où il est parti en travers. En Q1, il était quand même, on voyait peut-être qu'il était un peu anxieux à cet endroit-là, mais après il a quand même repris à fond, alors que ses mécaniciens avaient contrôlé sa voiture, mais on n'est pas à l'abri quand même qu'il y ait une direction un peu tordue
ou ouais, voilà.
Une suspension un peu abîmée quoi.
Même si t'es à fond, t'es pas à fond.
C'est quand même pas mal ce qu'il a fait quoi.
Ouais, c'est
bon,
vrai.
Après il ne peut s'en prendre qu'à lui sur son erreur.
Tout à fait.
Mais quand même.
Il y en a un autre qui est un autre de résultat qui est assez surprenant, c'est Vettel. Sa plus mauvaise qualification de la saison, si je me trompe pas, quatrième.
Ah bah,
c'est vrai qu'il
Il est parti en plus, enfin il est vraiment parti pour à vide, hein, pour faire le meilleur temps. Et il finit quatrième, je crois que c'est suite à une erreur ou.
Oui, du moins une erreur, je sais pas, mais il espérait vraiment la pole. Oui.
Mais il l'avait, hein, je crois, avant que tout le monde saute dans son dernier relais, il était meilleur temps. Hein.
Oui, avant que Barrichello, Kimi et Button ne passent.
Autre belle performance, celle de Nico Rosberg, sixième. Là, ils ont un peu confirmé en qualification.
Même Nakajima, il réussit à aller en.
Ouais, enfin, il fait dixième.
Oui, mais
il est là quand
3.
Même.
Il est là.
Il était à la lutte avec Piquet pour.
Oh, le fait d'armes. Ah, j'étais en lutte avec Piquet. Ah, trop content, je suis sûr que le mec il est rentré. Ouais, j'ai battu Piquet. Allons-y, l'a regardé, puis t'inquiète, on s'est battu.
Mais c'est vrai que Williams, c'est devenu. Enfin, c'est un circuit qu'elles aiment beaucoup, les Williams.
Ouais.
Monaco.
Ouais.
Autre.
J'aurais espéré que pour Williams, pour Brown Grand Prix, ça se passe comme pour Williams en 92. C'est-à-dire où, alors que Mansell à l'époque dominait outrageusement les quatre premières courses, il avait dû repasser au centre, du moins il avait eu un souci et il avait perdu la course comme ça, il avait fini derrière Senna. J'espérais que les Brown aient un petit incident quand même pour relancer un peu la course.
Je pense que tout le monde espérait ça. Hein.
Mais bon, tant pis.
Pour l'intérêt du championnat, c'est vrai que on supporte l'équipe et tout, parce que c'est une belle histoire, mais pour l'intérêt du championnat, on espérait quand même qu'il y ait une erreur dans le schéma de Brown. Sauf que pour le moment.
Ah, il n'y a pas d'erreur. Très peu.
C'est le sien.
À noter la septième place, juste avant de passer de la course, la septième place de Kovalainen, qui rentre pour la première fois cette saison en Q3.
Ouais, bah c'est sa meilleure qualif de l'année.
Alors qu'en 2008, il n'était jamais sorti de la Q3. Il avait toujours été dedans, contrairement à Hamilton qui était des fois sorti de la Q3. Là, Kovalainen, c'est la première fois cette saison. Alors que la dernière, c'était un habitué. C'est encore un témoignage de la McLaren de cette année.
Mais là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Monaco est un circuit plus où c'est des performances mécaniques, dynamiques. Les faiblesses aérodynamiques de la McLaren sont moins pénalisantes pour l'équipe sur ce type de circuit.
Et Hamilton peut avoir des regrets, hein, parce que si Kovalainen y fait 7, vous imaginez ce qu'il est capable de faire. Il connaît très bien ce circuit, et puis il est meilleur sur la McLaren cette année.
En plus, il a fait partie des meilleurs temps ce week-end, je crois, aux essais. Donc,
C'est vrai qu'il a été, quand même décevant. Il a été brillant pour ses deux premiers Monaco. Finissant deuxième et premier quand même. Hein. C'est quand même pas rien.
Et même avant qu'il soit en F1. Hein.
Oui, je crois qu'il a gagné en GP2 aussi.
Ouais. C'est la première fois qu'il ne finit pas dans les deux premiers d'une course à Monaco. Sur toute sa carrière, donc c'est GP2 et F3000 voilà. Inclus.
F3000, il a jamais fait de F3000.
Je sais pas, enfin.
C'est de la F3.
Ouais, la F3, on se comprend.
Série.
Sauf qui regarde la F3000 ou la F3, sérieux.
Bah, ceux qui sont au bord du circuit, parce que ça passe avant.
Ouais, voilà.
Ouais.
Mais on n'a pas tous cette chance.
C'est vrai.
Voilà. donc on passe à
d'ailleurs, je ne sais pas s'il nous écoute, peut-être qu'il nous écoutera. Je fais un énorme merci à Henri qui a pu me faire profiter de ses places. Voilà, s'il nous écoute, il se reconnaîtra.
Merci Henri de nous écouter. Merci pour Enzo, ça nous a valu 3 petits beaux directs.
Merci Henri.
On se retrouve tout de suite pour la course ?
Allons-y.
Et on retrouve. Allons-y. Et on retrouve Enzo. Non,
je en direct de son canapé.
Alors, on commence par le départ et puis après on fera le classement. Un départ sur lequel on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait, pas grand-chose parce que Raikkonen était deuxième, certes, avec le Kers, mais vu la configuration du circuit de Monaco,
il était du mauvais côté.
Servir,
Déjà, il était du mauvais côté et le Kers, de toute manière, ne pouvait pas servir au départ.
Voilà, donc, oui. il y a ces 300 mètres, je crois, jusqu'au premier virage. Ouais. Donc là, pour le coup, ça sert. D'ailleurs, si je me trompe pas, le seul endroit où il s'en servait, c'était sous le tunnel.
Ouais, sans doute.
Ce qui a provoqué encore quelques erreurs de Massa.
On y reviendra.
Donc, au classement, nous avons Jenson Button qui signe encore une victoire.
Eh ouais.
Ah, ça commence à devenir chiant.
Non, je te laisserai pas dire ça. Non, mais qu'on soit d'accord. Il signe une belle victoire.
Oui. En
Je sais pas. Moi, j'ai vu qu'un résumé de la course.
Il a eu de la chance. Il aurait pu être rattrapé par Kubica s'il s'était pas accroché avec Vettel en Australie. Ensuite, la course d'après, sous la pluie, il a sa demi-victoire, comme je l'appelle. Là encore, c'était une belle course, mais bon, là encore, la course a été interrompue, mais Glock aurait pu lui souffler sur la fin. En Chine, il a perdu. Les deux courses après Bahreïn, que ce soit Bahreïn ou en Espagne, Vettel, à chaque fois, aurait pu lui contester la victoire si il n'avait pas été gêné à la fois par Trulli et par Massa. Là, on peut dire, franchement, il a marqué la course de son empreinte. C'est une victoire qui fait qui laisse place à aucun doute. Il était vraiment le plus fort dimanche.
Ah oui, largement.
Sincèrement, il était au-dessus du lot, quoi.
Non, là, je suis obligé de te contredire. On est sur quel circuit, là?
Monaco.
On est à Monaco. Il part de quelle position?
La pole.
La pole. Donc, il a, entre guillemets, s'il n'y a pas de pépin, il a course gagnée dès le départ.
Non, une chance sur deux.
Oui, une chance sur deux. Mais avec la voiture qu'il a et sachant que derrière il a juste son pilote et qu'en plus comme Raikkonen se rate un peu au départ, là honnêtement, pour moi honnêtement, c'est mon avis personnel, c'est pas la plus belle de ses victoires, même s'il a mené de la tête et des épaules le Grand Prix, il a mené de la tête et des épaules, mais on est à Monaco, c'est souvent le scénario qui se passe pour un vainqueur d'un Grand Prix à Monaco, et généralement quand le poleman n'est pas le vainqueur, c'est parce qu'il a abandonné.
Je suis d'accord, mais aucune faute en qualif. Il est parti avec des pneus tentes comme Barrichello, comme Vettel. On a vu les soucis, les soucis que les pilotes ont eu avec leurs pneus. Lui, il a réussi à les garder.
Il a tenu 17 tours avec les super tendres, alors que les autres, au 12e, c'était même plus des pneus.
Non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais alors c'est pareil. Button, il est premier. Il a rien devant pendant plusieurs tours. Pendant 4 tours, parce qu'il va récupérer le dernier, je sais plus à quel tour, je crois au 4e tour. Pendant 4 tours, il a rien devant. Donc, il est pas obligé d'attaquer ou de changer de trajectoire ou d'aller hors trajectoire parce qu'il y a un Gugus devant. Derrière, on avait quand même un petit train avec plein de pilotes et que forcément à ce moment-là, on tape un peu plus dans les pneus, on freine pas forcément là où on est d'habitude. On n'est pas dans une conduite optimum. Lui, au début de la course, il est en tête, il a un tour clair devant lui pendant 4 ou 5 tours. Il a une conduite optimum, il fait 4 tours de qualif et c'est là qui fait la différence. Je dis pas que la course est qu'il mérite pas la course, bien au contraire. La course, il l'a menée de la tête et des épaules. C'est une course, puis en plus c'est Button qui fait aucune faute, justement comme vous le dites, pas de faute, rien, c'est nickel, c'est propre. Mais on peut pas non plus dire que c'est extrêmement méritoire de gagner. Moi, je préfère à la limite sa course en Espagne ou même à Bahreïn, sa victoire à Bahreïn, qui est fondée sur une stratégie béton et sur un rythme en course extraordinaire. Là, il y a le rythme en course, mais bon, il part avec des circonstances qui lui sont totalement favorables.
Non, mais certes, mais on peut pas,
on peut pas lui enlever.
L'idée d'enlever, mais. Non.
Puis c'est vrai que Monaco, de toute façon, ça peut arriver, mais offre rarement des courses non plus extraordinaires.
C'est vrai.
Donc,
Aucun moment, on a eu un pilote qui s'est mis à tourner plus rapidement que lui, bien qu'il soit en tête. Si, peut-être Alonso, sur la fin, quand il était avant quelque chose, les extra tendres. Mais il a imprimé une cadence, pas de croisière du tout. Il a imprimé un rythme soutenu. Je dirais, il l'a vraiment construit fortement. Je pense qu'on peut pas jouer petit joueur de toute manière à Monaco. On n'est pas à l'abri d'un safety car, etc.
Ah non.
Et si course parfaite pour moi.
Je sous-entends pas qu'il a joué petit joueur ou quoi que ce soit. Je dis juste que sur les courses de ce début de saison, entre guillemets, la victoire dès le départ, dès le premier virage à Monaco. Après, si tu fais pas le con et si tu tombes pas dans un faux rythme et que tu ralentis pour assurer et puis si tu fais pas le connerie, grosso modo, c'est gagné. Inversement, tu prends la course de l'année dernière avec Hamilton qui tape en début de course et qui remonte et qui finit par gagner. Là, à Monaco, c'est un mec qui a du mérite de gagner. Là, il part dans des circonstances atténuantes. Certes, il fait le boulot. Mais bon, c'est une course traditionnelle de Monaco, il la gagne comme la gagne la plupart des mecs qui courent à Monaco depuis la pole et puis sans faire de vagues pendant la course. Et gloire lui en soit rendue, puis c'est mérité qu'il aille. Moi j'aurais aimé qu'il aille même avant ça, le Grand Prix de Monaco.
Il y a eu un peu trois phases à la course. Il y a eu un départ où il s'est passé des choses, il y a eu un beau ventre mou, classique. Et puis c'est vrai qu'à la fin, il y a eu cette question par rapport aux pneus. Mais c'était parce que, voilà...
Et ça, c'est un peu le schéma habituel des courses depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'on a effectivement ces trois phases.
Là, c'était renforcé parce que les pneus, ça a vraiment été une surprise.
Bah, au final, ils ont quand même tenu les pneus. Hein. Quand tu vois Bourdais qui a tenu 28 tours avec ses pneus tendres...
Bah, le seul où ça a vraiment merdé, c'est Vettel.
Mais le problème de Vettel, c'est qu'il les a pris au départ.
Ouais.
Et qu'à partir de ce moment-là, dès qu'il prend les pneus tendres au départ, Sébastien Vettel...
Mais en même temps, les Brawn aussi l'ont pris au départ.
Excusez-moi. Oui, mais les Brawn, c'est pas... Enfin, on sait très bien depuis le début de la saison, les Brawn Grand Prix, au niveau des pneus, c'est une usure minimum. C'est une voiture qui use très peu les pneus. Et donc, eux, ils ont pu gérer, justement, quand on dit Button, il tient 17 tours avec les pneus. Bah, d'abord, il y a le style de Button qui fait que Button est beaucoup moins agressif, il est beaucoup plus collé, beaucoup plus coulé. Et puis, il y a la Brawn Grand Prix, qui est quand même une voiture qui, depuis la saison, avec des pneus tendres, dure plus longtemps que tout le monde.
Mmh. C'est vrai.
Oh, bon Button.
Ah, mais sérieux, et franchement, moi, il l'aurait mérité avant, quand on le voit. Il a un style pour piloter dans Monaco, quoi.
Ah oui.
Il a une sexualité. Moi, je sais pas si ça vous l'a fait, mais le coup des voitures plus larges aux ailerons avant, etc. Quand on regarde les voitures, on prend en pleine face le fait de ce que c'est de piloter à Monaco. Parce que là, on voit vraiment la largeur des voitures dans les rues de Monaco.
Ah oui, bah ouais.
Moi, c'est la première année, par exemple, j'en parlais avec mon père, et mon père me disait, dis donc, Monaco, les mecs, ils pilotent, c'est des pros, quoi. Alors
oui, c'est vrai
que ça fait quand même 20 ans qu'il regarde la Formule 1, donc c'est seulement cette année, en voyant ces grosses palettes devant, qu'il prend conscience que courir à Monaco, c'est quand même être dans une trajectoire de dingue.
C'est vrai qu'il arrive une ou deux fois pendant la course, tu vois la voiture, puis ça le faisait, tu le sais, mais là vraiment, parfois tu réagissais, parce que tu disais, oula, il est pas très loin du rail quand même.
Ouais.
Donc, à la belle victoire de Button se rajoute le doublé avec Barrichello.
Ouais.
Bon bah pareil, hein, si mon raisonnement qui s'applique à Button s'applique à Barrichello, une fois qu'au premier virage il est passé deuxième.
Très bon départ. Hein.
À moins d'une erreur. Oui, bah ça Barrichello, qu'est-ce qu'il nous fait comme départ cette saison?
Je dirais pas qu'il a pris si bon départ, mais il a fait quand même pas mal de bons départs.
C'est vrai. C'est la voulu rajouter à ça.
L'émission va être bien au final une fois montée, mais l'enregistrer c'est la pire.
Ouais.
Donc voilà, beau doublé, c'est le troisième de la saison de Brawn.
Déjà, oui.
Ouais, déjà. Comme dit Jean-Louis Moncet, hein, une équipe qui gagne, qui fait un doublé à Barcelone et qui derrière fait un doublé à Monaco.
Excusez du peu.
Voilà, c'est quand même révélateur du potentiel de la voiture sur toute la saison. Ils ont toujours pas abandonné, pas un pépin technique, même en essai, quoi. Je les ai jamais vus. Depuis le début de la saison, je ne les ai jamais vus ralentir, s'arrêter au stand parce qu'ils avaient un problème, rien.
Seule équipe à avoir mis ses deux pilotes dans les points pour toutes les courses.
Je pense que cette équipe, elle a fait déjà plus de tours en course en tête qu'elle n'a fait d'essais hivernaux.
Oh, c'est sans doute vrai, ça.
Ça serait marrant, le chiffre inutile, là, il serait utile de le chercher.
Mais c'est pareil, on peut se demander, est-ce que, parce que quand même, moi je trouve cette fiabilité de la Brawn Grand Prix, elle est quand même impressionnante. Est-ce qu'il n'y aurait pas des changements de moteur, etc., dont on ne serait pas au courant, et puis qu'on arriverait à, je ne sais pas, à 5 ou 6 courses de la fin, puis qu'on verrait que Brawn est en train de tout le temps changer de moteur?
Non,
là, il a quand même pas un pépin technique, quoi. Rien.
Ça saurait ce genre de choses, je pense. S'il changeait tout le temps de moteur.
Ouais, tout à fait. Sincèrement, c'est un truc que je trouve décevant ces derniers temps en F1. C'est que finalement, il n'y a plus jamais de casse mécanique. Ça faisait partie c'est aussi peu, ouais. de la course. C'est un peu dommage. En fait, on a tellement voulu faire des économies, donc avoir des moteurs qui tiennent 4 courses, etc. Bah voilà, on a plus de course où on a Kimi qui explose son moteur à un tour de la fin ou des choses comme ça, quoi. Et du moins, Kimi c'est un exemple parce que ça lui est arrivé, mais quand il était chez McLaren.
Ouais.
Mais
et c'est pas un exemple ça arrive que plus.
Je pense que Kimi maintenant il se plaint plus. Hein.
Ouais.
Il en a tellement subi à une époque.
Je suis d'accord, mais c'est quelque part ça, c'est un peu peut-être pour la course, pour le spectacle, ça faisait partie. Ça faisait partie. Là, on a l'impression que finalement, la F1 est effectivement, c'est soi-disant technologique, mais Oui, mais ils vont pas si loin que ça, puisque finalement c'est super fiable. Or, soit ils sont tous venus des Cador alors qu'ils l'étaient pas avant, mais j'ai quand même un doute. Je pense plus que c'est dû à la réglementation qui finalement assouplit les contraintes qu'on met sur les voitures, sur les moteurs et les différentes pièces. Et c'est peut-être un petit peu dommage.
Je suis d'accord.
Ce week-end, il y a deux pilotes qui ont quand même cramé un moteur.
Les deux Red Bull.
En essai.
Ah bon.
Les deux Red Bull, je crois. Pour rebondir sur ce que tu disais, Enzo, c'est comme l'histoire des ravitaillements, de la fin des ravitaillements l'année prochaine. On en a parlé la dernière fois. C'est intéressant parce que, comme tu le disais la dernière fois, ça va remettre le pilote au centre de l'échiquier de la F1. Enfin, ça va renforcer son rôle. Mais en même temps, ça va retirer toute une partie de stratégie qui est intéressante aussi dans la Formule 1 et qui fait partie intégrante de la F1. Là, c'est vrai qu'on a gagné parce qu'aujourd'hui, les voitures ont plus de défaillance, donc entre guillemets, c'est la performance pure de la voiture et puis le pilote qui gagne. Et puis il y a plus le facteur casse mécanique. Mais en même temps, c'est vrai que la course automobile est aussi faite de casse mécanique.
Ouais.
On passe au troisième pilote sur la grille.
Ouais.
Fratelli d'Italia.
Ah, c'est pas une victoire.
Non, ça je le réserve pour la victoire.
C'est pas une victoire, mais c'était la
chiche.
Je te jure, chiche. Pour la victoire, je chante l'hymne italien.
C'était la première course de standing Ferrari, on va dire.
Ouais.
La première fois que voilà, on a vu des Ferrari rouler comme des Ferrari.
Bon niveau, pas d'erreur. Même dans la gestion de la course de fin, moi je me souviens être dans mon train, j'avais arrêté, j'ai écouté le début de la course à la radio, j'ai arrêté au 27e tour et
j'ai reçu un texto
d'Enzo qui dit mais faites ravitailler les Ferrari, et là j'ai vécu une horreur jusqu'au sein de la course parce que j'ai tenu à rester.
C'est pas ravitailler que je voulais. C'est le coup. En fait, pour moi, Ferrari, je ne sais pas si le dernier ravitaillement de Kimi était prévu si tôt. Je pense que c'est au moment où il y a eu la sortie de piste de Kova. Je pense qu'ils ont demandé à Kimi de rentrer tout de suite pour. Ils avaient peur du safety car. Pour anticiper la sortie du safety car. Et je pense que du coup, c'était au 51e tour, c'est-à-dire qu'il restait 27 tours. Du coup, vu tout ce qu'on nous disait sur les pneus extra tendres, ça ne pouvait pas tenir. Et ouais. Moi, je me suis dit, si vraiment il y a une différence comme ça, mais qu'on fasse faire limite deux tours à la Ferrari, c'est tout avec les pneus tendres, ou un peu plus quand même, on va pas exagérer. Mais ouais. Tout de suite, remettre après des pneus durs, entre guillemets, mais qui étaient quand même tendres. Et pour après, reprendre un pneu de croisière, plus en attaque, quoi.
Ouais, mais
c'est exactement ce que j'ai reproché à Ferrari qu'ils n'ont pas fait avec Massa en Espagne, à savoir le faire ravitailler, lui foutre des gommes tendres où il aurait pu attaquer comme un malade et sans doute remonter sur ses poursuivants. Et j'ai eu peur qu'on retombe dans la même chose ici, quoi.
Mais non, mais en fait, comme tous les autres derrière, ils étaient tous passés au pneu tendre, sauf il y avait Vettel qui était en pneu tendre au départ, donc il avait que des durs à faire, mais comme il a abandonné, il n'y a pas eu question. Et puis les deux autres, c'était les Brown Grand Prix qui étaient partis en tendre et qui n'avaient plus que les durs à mettre. Donc derrière Kimi, ils mettaient tous des tendres.
Oui, donc, mais il y avait Alonso qui allait en mettre beaucoup
de Raikkonen qu'il allait avoir avec les pneus tendres. Tout le monde allait le connaître, donc ça allait jouer au final sur très peu de choses.
Oui, mais sauf que lui, c'était pour 27 tours, alors qu'Alonso, c'était pour les 12 derniers. Et vu ce qu'il disait, 27 tours, ça devait pas tenir, quoi. Donc, si c'était pour un moment se retrouver pendant 3 tours à perdre 5 secondes au tour, c'était autant passer au stand. Bon, visiblement, ils ont quand même bien géré.
Ouais.
Bon, félicitations. Enfin,
il devait être dans un sale état, quand même, à la fin de
En plus,
ils m'ont fait des sueurs froides, quand même.
Prost est expliqué sur Europe 1 que Ferrari avait une petite particularité ce week-end avec les tendres, c'est que quand tout le monde mettait les tendres, dès le premier tour, c'était le premier deuxième tour où on avait la performance maximale. Et chez Ferrari, c'était plutôt entre le quatrième et le cinquième tour qu'ils avaient la performance maximale avec les pneus.
Donc une fenêtre un peu décalée.
Peut-être effectivement que Ferrari, ils ont trouvé le moyen sur cette course-là de mieux digérer les pneus tendres et qu'en fait ils ont tenu un peu plus longtemps, au lieu de tenir 12 tours, ils ont tenu 15 ou 16 tours. Ce qui était suffisant puisque ça a compensé avec le fait que Alonso ravitaille, je crois que ça a été parmi les derniers à ravitailler, il a mis les tendres ils ont été pleine bourre, mais à un moment donné, c'est pareil, ces pneus se sont effondrés, donc les écarts se sont stabilisés.
Ouais.
Mais c'est vrai que si ça avait été trop limite, oui, tu les passes, tu reviens le tour d'après, tu les retires.
Mais surtout Kimi a mis 25 tours, quoi. Il les a eu pendant plus de 25 tours.
Ouais. Hein.
Mais moi, j'ai une question, faudrait peut-être s'en renseigner. Est-ce que la voiture entre au stand, on met les tendres, on pose la voiture, on la relève, on retire les tendres, on met les durs.
Non, ça,
est-ce que ça serait valable?
Non.
Ils ont mis les tendres.
Il faut rouler quand même avec.
Ah bah, tu fais un millimètre. Tu dis au pilote, avance, recule, et puis c'est bon. Et tu perds 5 secondes au stand au lieu de repasser une deuxième fois au stand. C'est bizarre que Ferrari ait jamais pensé.
Et de la même manière, est-ce qu'ils sont obligés d'avoir 4 pneus identiques?
Oui, je vois, ça je pense, oui. Pour question de sécurité, je pense qu'il doit y avoir un règlement quelque part qui dit, tu sais, c'est comme quand t'achètes un truc, avant de brancher la prise, couper le courant, quoi, ou éviter d'avoir les mêmes. Là, je pense que c'est pareil, quoi. Fais attention, mets tes 4 pneus identiques.
Non, mais à droite et à gauche, oui, mais devant et derrière.
Ah, ben, je crois qu'à une époque où ils étaient pas obligés, je crois qu'il y en a qui mettaient des pneus, des mélanges différents à l'arrière et à l'avant, je crois, non? Mais donc, si tu nous écoutes, envoie-nous un mail via le formulaire de contact du site et puis.
Et profitant pour participer au jeu Top Pas Position.
Top Pas Position. donc, belle course de Kimi quand même, hein. Apparemment, tout le monde est satisfait. Oui. Il fait une belle course.
Oui.
Bon, au départ, Barrichello fait quand même mieux que lui. Il fait un bon départ. Je pense qu'il y a aussi le phénomène Kers qui joue un petit peu.
Bah oui, il est plus lourd.
Puisqu'il est plus lourd et puis c'est pas la même répartition, donc peut-être que la voiture est un peu plus lente à décoller sur.
Comme on l'a dit, mauvais côté de la piste, ça aide pas.
Donc voilà, donc troisième place, c'est bien, ça fait un podium.
Ouais.
Et puis ça, c'est un truc que McLaren n'aura pas.
On se contente de peu.
Hein. Ouais, mais tu sais, maintenant, moi, mon objectif cette saison avec Ferrari, c'est de finir devant premier des gros top teams, donc finir devant BM, devant Renault et devant McLaren. Si on finit devant ces trois-là.
Peut-être même aller chercher la troisième place.
Non, faut aller chercher Red Bull aussi.
Oui, non, honnêtement, Toyota pour moi c'est mort. Hein. Je pense que Toyota ils ont commencé à boire du mauvais vin, ça va vite couler. Et puis Red Bull, on va en reparler, tiens, parce que Mark Webber va approcher, mais Red Bull ils ont fait des changements sur la monoplace et ouais. Même si on est à Monaco, moi ça m'a pas l'air bien payant pour le moment. Au point que Red Bull doivent aujourd'hui affirmer dans la presse que non, ils ont confiance en leur diffuseur. C'est quand même dire que pour le moment, il y a un petit avis unanime comme quoi les changements apportés sont pas bénéfiques.
Non, puis il faut en profiter pour faire rire parce que dans deux semaines, en Turquie, ça sera peut-être pas aussi bien quand même. Parce que.
Mais ils sont chez eux en Turquie.
On peut espérer des choses de. Oui, c'est vrai, on peut espérer des choses de Massa.
Voilà.
Faut surtout en profiter parce que l'an prochain, ils seront peut-être plus en F1.
Oui, c'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
Puisqu'il n'y aura que deux Williams sur la grille de départ des championnats.
Attends, il y aura deux Williams, il y aura qui d'autre? Il y aura.
USF1.
USF1 et.
Lola.
C'est Lola.
Zach Speed.
Non, Zach Speed, ils vont revenir.
Je sais plus, je crois. Non, c'est pas Zach Speed, c'est un autre truc qui commence.
Ah, mais attends.
Je dis pareil.
Là, sur la réglementation, je crois que c'est Briatore.
Ne nous égarons pas.
On qui s'est bloqué. Non, mais quand même, là, on peut quand même dire, des équipes de F3 en Formule 1, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Les mecs, ils disent comme ça, ils tournent avec un budget de 2 millions d'euros par an, et puis ils disent, on va aller à 45 millions.
J'ai vu un article, juste avant qu'on commence d'enregistrer, où c'est un interview de Flavio Briatore, qui a dit, nous, quand on a commencé avec Benetton, on était une petite écurie, on se battait avec nos moyens, on s'est jamais plaint pour que les autres dépensent moins, etc. Et en 94 et en 95, ça nous a pas empêché d'être champion du monde.
Voilà, donc, tout à fait.
Et j'ai trouvé ça très bien. Il faut pas qu'on veuille à tout prix que plein de petites écuries puissent arriver et gagner comme ça. Il faut que c'est sa force de travail qu'elles vont se construire. Il ne faut pas dénaturer ça.
Voilà, c'est sûr qu'il faut rétablir la différence assez importante entre les budgets des petites équipes et des grosses équipes. Mais on le voit cette saison, hein, Brown Grand Prix qui mène avec un, entre guillemets, un petit budget de fonctionnement. Et pourtant ils gagnent parce qu'ils ont les bons ingénieurs, parce qu'ils ont la niaque, parce qu'ils ont failli finir au placard et que les mecs ils se sont battus jusqu'au dernier jour sans même savoir si la voiture avait roulé, ils l'ont développé, ils ont adapté le moteur. C'est des mecs qui ont la niaque et c'est à la force de caractère et avec un petit budget qu'ils arrivent à être en tête et ça les empêche pas d'être en tête.
Sauf si tu comptes dans leur budget le budget R&D qu'ils ont dépensé en 2008 pour
construire. Oui, voilà, il y a ça aussi différent, c'est certain. Mais ça veut
parce
dire
que là, forcément, il sera plus conséquent leur budget. Hein.
Si tu fais sans ça, et puis si tu mets, on se souvient par exemple de Minardi qui avait plein de petites idées aérodynamiques et qui dès qu'elles étaient reprises par des grosses équipes, ça fonctionnait. Le truc, c'est que Minardi n'avait pas les moyens de développer ça en profondeur. Mais si tu mets un peu plus de moyens, effectivement. 80 millions, c'est pas mal, je pense. Et puis que t'as les bons ingénieurs, les mecs qui ont les bonnes idées. Une petite équipe, pas forcément jouer la gagne, mais elle peut jouer les points. Et puis c'est comme ça qu'ils vivent. Hein. La F1, c'est pas non plus que des équipes qui viennent pour gagner. C'est aussi des équipes qui viennent pour faire le compte, pour montrer la voiture, pour vivre de coups d'éclat.
Gagner et gagner sur le long terme.
Voilà.
Parce que on a l'impression aussi, tu sais, qu'on veut des équipes qui gagnent tout de suite.
Ben non, mais de toute façon même la F1. C'est, on va reparler NASCAR. C'est le moment NASCAR de Yannick pendant cette émission. En NASCAR, il y a un fameux proverbe, c'est il y a 43 pilotes et il y a un vainqueur. En F1, c'est pareil. Il y a 22 pilotes, enfin 26 l'année prochaine, enfin 20 cette année, 22 traditionnellement et 26 l'année prochaine. Il y a 20 pilotes, il y en a qu'un qui gagne et les autres derrière, c'est des perdants. Donc faut qu'on arrête de penser que tout le monde se bat pour la victoire. Non, Toro Rosso, quand ils viennent pas se battre pour la victoire. Ils se battent pour faire une bonne course.
Et dans les années 2000, c'était il y a 22 pilotes et à la fin, c'est Schumi qui gagne.
Voilà. Ah, c'était de bons vieux proverbes, ça.
Ah ouais.
Ah là là, si ça pouvait être...
Cette année, et à la fin, c'est Button qui gagne.
Voilà. Donc, on revient sur la course. Donc, Kimi Raikkonen, troisième avec une bonne course. Quatrième, Felipe Massa.
Oui.
Qui a fait une belle course, hein, parce qu'il est quand même allé la chercher, sa quatrième place.
Ouais.
Pas flamboyant, pas extraordinaire, mais bonne course, quoi.
Sur le rythme, il a profité quand même des mésaventures de comment ça s'appelle, Vettel. Mais il s'était fait passer, en voulant passer Vettel, il s'est fait passer du même coup par Rosberg, en rendant en fait à Vettel ce qu'il avait coupé dans la chicane. Et il a quand même réussi à se débarrasser de Rosberg.
Pour moi, c'est le dépassement de la course. Hein.
Ah oui.
Rosberg qui
c'est double, génial ce qu'il a fait.
Qui double Massa, franchement, c'est.
Mais en même temps, à Monaco, un dépassement de la course, c'est pas difficile à trouver.
Non, il y en a d'autres. Hein. Non,
même un dépassement à la sortie des stands, c'est le dépassement de la course à Monaco. Hein.
Voilà.
Franchement,
non, mais là,
Rosberg gonflé, quoi.
Énorme.
Ouais. Non, courageux, franchement courageux.
Ah. Ouais, en plus, c'est vrai qu'il est chez lui. J'entendais il était.
Ils sont tous chez eux, ils habitent.
Ah non,
tous.
Mais lui, vraiment.
Ah non, mais lui, il y a.
Oui, non, mais bien sûr. Mais crois-moi, déjà, à cet endroit-là, ils peuvent pas y rouler en temps normal.
Ouais, non.
Il y a des voitures qui sont garées à cet endroit-là. Ça, sur le bord du port, il y a pas une route, là. Il y a des parkings, il y a des places de stationnement.
Ah, ça va être joli.
De toute manière, qu'on dise que c'est chez lui, ok. Il y a la moitié des routes qui prennent, c'est à contresens. C'est pareil, ils peuvent pas le faire en temps normal. Donc, qu'on leur dise, ils sont chez eux, oui, d'accord, mais bon, c'est pas pour autant que le gars, tous les samedis soirs, il s'entraîne, quoi, sur la piste, hein. C'est pas possible.
Donc, Massa, quatrième place, derrière Kimi. Pour une fois. On est plus habitué à ce qu'il soit derrière Kimi.
Ça fait un petit moment que c'était pas arrivé.
Ah ouais. À la régulière,
Il y a deux courses quand il a marqué des points et pas Massa, mais sinon, alors que les deux finissent, oui, ça fait un petit moment. Hein.
Ouais. Cinquième, Marc Weber.
Comme en Espagne, je l'ai pas vu.
Ouais, mais il est venu nulle part. Ouais. Et en plus, il passe devant Rosberg.
C'est ça, mais il est assez surprenant parce que finalement, il fait une course assez insipide, on ne le voit pas. Et alors que, voilà, Rosberg, on le voit, etc. Il s'est montré quand il a dépassé Massa, quand il a dépassé Vettel. Et finalement, Weber, pouf,
ouais.
on a l'impression qu'il trouve des raccourcis sur le circuit. Et,
mais peut-être.
Et oui, peut-être. C'est peut-être ça, en fait. Et il prend des places comme ça, il gagne des places. Et
donc, il aime bien circuler, hein. Ça fait plusieurs années qu'il fait de bons résultats avec Red Bull à Monaco. Même si Red Bull à Monaco cette année, c'était pas...
En fait, il double Rosberg...
Dans les stands, je pense.
Dans les stands, voilà.
Ouais.
Mais bon, il lui colle quand même 15 secondes. Hein. Donc, ouais, grosse course de Mark Webber.
C'est peut-être aussi que la Red Bull était plus efficace sur le long terme que la Williams.
Peut-être, ouais. Peut-être qu'ils étaient plus efficaces avec le plein.
Oui.
Ce qui n'était peut-être pas le cas avec Léger. Peut-être pour ça que Vettel n'a pas bien tourné au départ. Donc, sixième, Nico Rosberg.
Oui.
Donc, pareil, hein, on ne
fait pas. Ouais, on en a parlé.
Sur son dépassement. Globalement, bon week-end de Rosberg quand même.
Bon week-end, plus rapide en Q1, sixième temps sur la grille, ce qui est bien. Bon, sixième temps à la fin de la course, c'est dommage que Weber lui passe devant, parce qu'avec l'abandon de Vettel, il aurait dû gagner une place, mais bon.
Ouais.
Il a battu, du moins, il s'est débarrassé d'une Red Bull, mais l'autre lui a pris une place.
Et on a beaucoup parlé de lui ce week-end, parce que.
Ah oui.
C'est peut-être un peu trop petit pour le talent de Rosberg, forcément.
Alors, on lui a posé la question justement chez Autocritique. Ils lui ont demandé si Ferrari, ça ne faisait pas rêver. Et il a répondu ce que répond tout le monde. Il a dit oui, Ferrari, ça fait rêver, mais c'est pas la seule équipe. Voilà. Donc derrière, on a quand même compris que par exemple, il y avait McLaren qui pouvait l'intéresser. Et...
C'est marrant parce qu'Alonso, il y a 2 ans, je crois, qu'il nous a dit non, Ferrari, ça m'intéresse vraiment pas, quoi.
Ouais, ah non, surtout pas. Moi, je me rappelle même, il avait dit à l'époque de McLaren, il avait dit si McLaren ne joue pas le titre, je serai pour Renault parce que je veux pas que ce soit Ferrari qui gagne.
Attends, il avait dit quand il est arrivé chez McLaren que quand il était petit, il rêvait d'être chez McLaren.
Ah ouais, et puis maintenant il rêve d'être chez Ferrari.
Et maintenant, il dit que quand il était petit, il rêvait d'être chez Ferrari.
Alors justement,
bientôt il va dire que quand il était petit, il rêvait d'être chez Brown Grand Prix, quoi.
Justement, Alonso 7ème. Alors, Alonso, je sais plus si Alonso.
Fidèle à lui-même.
Voilà.
Attaquant.
Ouais. Mais encore, c'est-à-dire qu'il part 9ème sur la grille. Et là, tout le monde chez Renault, ils sont contents. Je vous disais une interview, je crois, de Franck Sebriator. Il disait oui, Fernando, il a gagné deux positions sur Monaco, c'est très bien. Il y a eu l'abandon de Vettel, et puis il y a eu je sais plus qui a eu un problème. De Kovalainen. Mais il a gagné 2 places. Bah non, il était 9ème. Après avoir fait avec Kovalainen, il est 7ème.
Okay.
Voilà, c'est une mathématique simple. Donc,
c'est Monaco.
Voilà, c'est Monaco. Il a pas pu dépasser, il a plus rien faire. Apparemment, Fernando, il commence à en avoir marre.
Ouais.
Deuxième rumeur du week-end qui a été relancée par tout le monde. Hein. Alonso a dit si ça continue comme ça, moi j'en ai marre, je vais me barrer. Il a même dit qu'il songeait à quitter la.
Voilà, il quitterait la F1 si.
Non, mais parce qu'il a aussi parlé de Renault. Il a dit que si ça n'évoluait pas chez Renault, qu'il voyait pas forcément son avenir dans l'équipe. C'est l'interview de lundi. Et plus effectivement le côté qu'il a pu dire à ce rythme-là, je vais quitter la F1, ça a relancé les rumeurs de Alonso chez Ferrari. Malheureusement, Raikkonen fait un bon grand prix.
Et surtout Raikkonen qui dit, moi Ferrari où qu'ils aillent, je les suivrai.
Ouais, voilà. Il a dit ça.
Non mais on sent que le torchon brûle en ce moment avec Renault. Puis je pense qu'il est aussi frustré de voir qu'on réagit pas sur le coéquipier, quoi. Je pense que Alonso, il a envie d'un coéquipier, pas d'un nouvel Hamilton, mais il a envie d'un mec qui
ah non, je
passe
pense
un peu
pas qu'il veuille un nouvel Hamilton, non, ça c'est clair.
Voilà, je pense qu'il a quand même envie d'un mec. Je pense que lui, peut-être qu'il a envie d'un Bourdais à côté de lui, d'un mec qui fait le boulot, qui est pas plus rapide que lui, mais qui va faire qui va tourner. Non, mais je dis un Bourdais parce que moi, je rêve de voir Bourdais chez Renault, mais un Bourdais ou pourquoi pas revenir physiquer là ou voilà, un pilote qui est à côté de lui et puis qui le dynamise, quoi. Alors que là, Piquet, bon, il dynamise strictement rien. Je pense que ça gonfle Alonso.
T'imagines quand même que Alonso, l'an dernier, et puis même quand il est parti de McLaren, on parlait de contact avec Honda.
Oui, c'est vrai. Et il doit bien se bouffer les couilles maintenant. Hey, il était en négociation avec Honda et Red Bull. Hein. Il peut se les mordre. Hein. Comme quoi, n'empêche, il a quand même été fidèle à Renault, c'est bien. Dernier dans les points, et là, attention, je dis un grand bravo, parce que c'est une sacrée performance, Sébastien Bourdais, 8ème. Alors lui, il nous a fait un grand prix avec 50 tours, avec un premier plein et des pneus durs, ce qui déjà, à Monaco, faut le faire quand même, hein, avec le plein entier et tout, belle performance, et il nous finit avec les pneus temps sur 28 tours.
Et je me rappelle même que les commentateurs étaient un peu inquiets, parce qu'il y avait Fisichella qui revenait sur la fin.
Ouais, mais bon, Fisichella, il a aussi chaussé les pneus tendres après, donc.
Ouais.
Quoi que ça aurait été beau aussi pour Fisichella, hein.
Oui.
C'est là où Force India a failli marquer ses premiers points et. Ça aurait été, ça a été gâché par Raikkonen l'an dernier.
C'est pas de sa faute. Si
Donc voilà, des remarques sur Enzo, t'as pas entendu ce bourdé?
Non, c'est une course solide qu'il a fait. Bon, en plus, c'est d'autant plus remarquable que son coéquipier a fait une boulette, donc.
Oui, c'est bien gagadé. Hein.
Alors, moi, j'entends.
On est plein de louanges sur BMI, il faut quand même qu'on le casse à un moment donné.
Non, non. Moi, j'ai été surpris quand même parce que j'ai lu ça sur un site, comme quoi il aurait déclaré quand même que Piquet aurait freiné volontairement un peu tôt.
Oui, mais ça c'est pareil, c'est la course. À un moment donné, il faut que les mecs ils arrêtent.
Et puis,
il a pas freiné, il freine la suite. Bah, normal, t'es juste derrière lui. Le mec, il va quand même pas te donner sa place.
Ah non, mais tout à fait. On a...
il me faut rien, les pilotes.
Bah, je sais pas pourquoi il a pas freiné.
donc voilà, 9e physique est là.
Ah, c'est bien.
Belle course.
9e.
C'est le dernier dans le tour d'ailleurs.
Juste oui.
Voilà, bon week-end des Force India, on en a parlé pendant les qualifs, peut-être que ça vient aussi du train arrière McLaren, enfin Mercedes, j'ai du mal à faire la différence. Puis là, exploit, Timo Glock arrive à glisser sa Toyota en 10e place. Comment qu'il a fait, on sait pas.
En plus, il y a un mois, on aurait dit c'est nul, et là...
En plus, en partant des stands, donc belle course. 6e, Nick Heidfeld.
Bah pareil, hein.
Voilà.
Exploit.
Alors, faut pas oublier en même temps qu'il y a 7 voitures qui ont pas fini la course.
C'est vrai.
C'est-à-dire que si tu rajoutes les 7 devant.
Ouais, mais ils sont pas tous. Ouais, effectivement.
Ah oui.
Et puis bon, on va s'attarder un petit peu sur le 12e.
Ouais.
Hein,
ouais. Ça a dû lui faire mal le 35e tour.
Lewis Hamilton.
Ouais.
Pourquoi ça lui a fait mal le 35e tour?
Bah je crois que c'est au 35e tour, il m'a semblé que je vais avoir retenu ça, que Button lui a pris un tour.
C'est pas au début de la course?
Oh non.
Non.
Parce que moi, je vous jure, moi j'étais à la radio et j'ai entendu le commentateur de la radio, je crois que c'était Del Perrier, qui disait, attention, ça fait à peine 7 ou 8 tours et Button est déjà dans les échappements de Hamilton.
Oh non. C'est petit Monaco, mais quand même, faut quand même un certain nombre de temps pour rattraper le dernier.
Non, mais je vous fais confiance.
Ce qui serait marrant, c'est de regarder l'an dernier à quel tour Hamilton a passé Button.
Voilà, question top position.
Oh la vache.
Allez, top ou non?
Parce que même avec cette F1, là, ça va être dur.
Ah ouais.
Parce que dans leur tableau des tours par tour, il n'est pas indiqué si c'est dans le même tour ou pas.
Ouais, c'est vrai. Ils font pas un saut.
D'ailleurs, on leur propose cette évolution.
Martial, si tu nous entends. il fait une belle course, Lewis, quand même.
Ah.
Bah oui, enfin, il remonte quand même.
Oui, il est avant-dernier.
Voilà.
Voilà.
Oui, mais là pour le coup, quand même, au niveau des abandons.
Avant-dernier, ouais.
Au niveau des abandons, quand même, derrière, il a fait pas mal de dépassements sur la piste.
C'est vrai, Sutil, il est parti devant lui, donc il a doublé Sutil, voilà.
Ouais. Bah, il est Trulli aussi.
Ah non, Trulli, ouais.
Bah oui, avec le changement de boîte.
Il partait côté à côté.
Et c'est tout?
Et c'est tout.
Oh non, non, et oh.
Bah si, c'est en réalité.
Bon, mais pour le fois, j'essaie de. Alors, s'il vous plaît, vous qui êtes fan de Lewis et qui nous écoutez, vous remarquerez que j'ai fait un effort cette semaine. Vous remarquerez que j'ai tout essayé et que c'est les deux autres qui m'ont empêché de comprendre.
Il part avant-dernier, il finit avant-dernier.
Non, d'accord.
Non, mais c'est bien, déjà, finir Monaco, c'est...
J'adore.
Finir Monaco, tu finis déjà dans les 14 premiers.
J'adore la vanne. Finir Monaco, c'est bien.
Non, mais... Les deux dernières courses, il a fini premier et deux, 1 et 2. Là, il a fini finir 1 et 2, ça fait 12, quoi.
Voilà, c'est vrai. Oh, bravo, Enzo.
Il sera content.
Ou alors, l'an prochain, il finira 21e.
Ouais, voilà. Oh, ça sera bien.
ça sera possible.
D'ailleurs, c'est ça le truc. Je ne veux pas que Ferrari monte trop vite. Hein. Stefano Domenicali, si tu m'entends, n'en faites pas trop sur la fin de saison. Hein. Histoire qu'on puisse quand même déjà commencer à préparer la voiture 2010. Parce que McLaren, ils vont pas se gêner. Que BM ils vont pas se gêner, puis que nous faudrait pas qu'on se batte jusqu'à la fin de saison pour rattraper Brown, perdre le titre, hein, comme des gros bœufs, et puis arriver l'année prochaine avec une voiture aussi bonne que la F60 première version.
faut déjà rattraper.
Ouais, non, mais moi, Ferrari sont déjà en train de viser la victoire et tout. Non, faites la deuxième place, ça sera bon. C'est tout ce qu'on vous demande. Sortez la tête haute. Oh, une petite victoire ou deux, on dirait rien. Oh non, pas de victoire. Allez, hop.
Oh, si, quand même.
Oh non, pas une seule.
Oh non, oh, si, quand même. Attends, ce serait la première fois depuis 94 qu'ils n'en auraient pas au moins une.
Tu veux pas vivre
ça? Non, stop. Parce que, s'il te plaît, il faut quand même qu'on parle. vous suivez la F1 depuis un certain temps.
D'accord. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas connu une seule saison sans victoire de Ferrari.
Voilà. Vous n'avez pas connu les années 92, 93, où chaque année en début de saison, vous disiez à vos...
Chez Benetton, c'est lui qui connaît rien.
Comment?
Non.
C'est lui qui connaît rien. Moi, j'ai connu Schumacher chez Benetton.
Oui, mais justement...
Moi aussi, j'ai connu chez Benetton. Je vous dis que j'ai vu mourir Senna, donc j'ai connu Schumacher chez Benetton, merde.
moi, je me rappelle de me battre bec et ongle en début de saison avec mes potes pour leur dire « Mais si, Ferrari, ils vont gagner au moins une fois cette année. » Mais si, je vous assure, ils vont gagner. Voilà. Et 92... rien, 93, rien. Bon, c'est pas facile, hein, tous les jours. Bon, vous n'avez pas connu. Depuis, ils sont rattrapés.
Mais justement, tu vois, c'est ce que je me dis. Une année sans victoire, ça pourrait relancer la machine.
Ouah, autant faire que quelques-unes, mais au moins une quand même.
Non, franchement, et t'as le choix entre zéro victoire et puis, comme l'année 2005, une victoire, mais taxi voiture sur la grille de départ. Qu'est-ce que tu prends?
6 voitures.
Oh non, sérieux, moi non, je préfère 0 victoire. Moi.
Non, sincèrement, ouais, j'avais oublié que 2005.
Parce que la honte à la fin d'année de devoir dire « Ah ouais, mais on a quand même gagné une course » et puis que tout le monde te répond « Oui, Indianapolis avec 6 voitures, enfin, Stade Jordan et Minardi. » Bon, d'accord, ok, mais on a gagné quand même. On a fait le doublé. Ça, c'est la honte, quoi, tu vois.
Non, oui.
Il d'ailleurs rien. À deux doigts de percuter une autre voiture. Quand on est 6,
attends, justement, quand même, Barrichello et Schumi auraient pu s'accrocher parce que Barrichello il se laissait pas faire. Hein.
Bienvenue au SAV du Grand Prix des États-Unis 2005. donc Loïc, bonjour mon frère. Lewis Hamilton fait une course de merde. Voilà,
non, on peut pas dire ça.
Allez, salaud. Ah, quand même, c'est vrai qu'il faut quand même avoir du moral pour. Alors que tu pars dernier, que tu t'es planté magnifiquement.
Avec une stratégie quand même assez merdique.
Oui, non, mais n'importe quoi. Alors, franchement, moi, quand j'ai vu ça.
Franchement, il serait parti avec la même stratégie que Bourdais.
Mais oui.
Il serait 8ème, quoi. C'est ça
que. C'est lui où la stratégie d'Aspern marche, c'est ici.
Ouais, c'est vrai que c'est n'importe quoi, quoi.
En plus, avec un peu de bol, il peut y avoir une safety car.
Parce que, en plus, franchement, on parlait tout à l'heure du potentiel.
J'ai une question piège pour vous. Quelle est la dernière voiture qui a terminé sur le podium sans faire de ravitaillement à Monaco?
C'est pas une Stewart?
Ah
ah. Comment il fait genre? Ça se rappelle Stewart par hasard?
C'est pas mal.
Je dirais 97. Ouh. Je dirais Monaco avec énormément de pluie, ou de la safety car, voire même les deux.
Bah, c'est pas Nice, non?
Non, pas Nice.
Je sais pas, moi. Alors, c'est 94, pas Nice.
Non, mais Cindy, joli. De mémoire.
Non, mais ça, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire?
C'est peut-être Barrichello.
Et c'est Barrichello sur sa Stewart.
Waouh. Ouais. Wow. Cher auditeur, vous avez remarqué mon air vachement intéressé. Waouh.
Non, mais c'est le côté culture un peu de.
Ah, mais moi j'assume le fait que
il n'y avait eu que 62 tours puisque le Grand Prix s'était arrêté au bout des 2 heures.
Non, mais moi j'assume complètement le fait de ne pas m'intéresser à l'histoire de la F1. Je l'assume.
Dès qu'il pleut à Monaco, c'est presque sûr, la limite des 2 heures, elle tombe.
Donc on a fini avec Lewis, là. On a quand même parlé de Lewis, de Ferrari et de Monaco pendant Lewis.
Bah, on cherche des trucs intéressants.
13e position, il y a un autre Ouli.
Bah.
Voilà.
Alors voilà quelqu'un qui fait une course de merde.
Moi j'ai trouvé le pff de Enzo très parlant.
Ça fait partie des trois écuries qui avaient le double diffuseur, qui était au. On était sûr et certain qu'il gagnerait une victoire en ce début de saison, et voilà quoi.
Mais ils ont failli, hein.
Ce qui est incroyable, parce qu'on en a déjà parlé.
Ils vont s'en vouloir longtemps, mais.
Ouais, on l'a dit, hein. Les équipes, souvent, elles progressent. Soit elles progressent beaucoup, soit elles progressent un peu. Et eux, alors c'est incroyable, parce que franchement, c'est rare. C'est rare quand même que ça arrive. En règle générale, on voit juste une voiture qui stagne et puis les autres avancent. Mais eux, ils régressent. Vraiment.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y avait quand même des modifs qui ont été faites en Espagne qui n'étaient pas bonnes. Donc la logique aurait été de les enlever, tout simplement.
Oh non, puisque c'était mieux laissé. Avant.
Et bien, ils ont laissé.
Ouais. Au moins, quand ils avaient Ralph, ils avaient.
Donc moi, je leur propose rajouter un laisse de 40 kilos, ils veulent des pneus en caoutchouc, vu qu'apparemment, ouais, ils aiment se faire mal.
Non, mais c'est le problème de ces petites écuries qui espèrent venir en F1 pour y gagner tout de suite.
Non, mais vous comprenez pas, le problème, c'est que là, non, franchement, ils ont un budget de 600 millions, la Toyota. Ils se trouvent à Monaco. Ils ont plus le droit de faire des essais, ils ont plus le droit de rien faire, donc ce qui fait qu'ils ont au moins 400 millions à dépenser.
Ouais.
À Monaco, ils étaient tous partis en train d'être au jeu, chacun a reçu une enveloppe d'un million chacun, hein. Ils ont claqué ça au casino, puis résultat, ils sont pas occupés de la voiture.
Mais si ça se trouve, ils ont tout paumé, et c'est parce que, tu comprends, ils avaient un peu les boules, ils se sont dit, on va faire une course discrète. Voilà. Fond de gris, on nous voit pas.
Moi, ouais. Quand même, non, mais moi, je tiens à les remercier parce que j'ai pu prendre des photos des Toyota.
Ouais.
Elles devaient aller moins vite que les autres. Je peux vous dire que j'ai pris un sacré nombre de photos de la piste vide. Parce que le problème, c'est que j'ai pas un réflexe numérique. La prochaine fois que je vais à Monaco, l'an dernier, on m'en avait prêté un, et là, j'avais pas. Donc, j'ai un truc où quand on appuie, ça prend la photo 2 secondes après.
Ah, oh, c'est le pied, ça.
Donc. Sachant qu'en plus, où j'étais placé, je les voyais pas arriver à l'avance, je faisais ça au bruit. Comme un peu comme Alési quand il tournait au bruit, hein. Il entend les graviers à droite, il tourne à gauche, voilà. Moi, c'était un peu ça, moi. J'entendais le bruit d'un moteur, je me disais, elle va arriver, j'appuyais. Et ça marchait pas bien. Mais les Toyota, j'ai pu les prendre en photo.
Donc, merci Toyota.
Merci Toyota.
Le SAV sponsorisé par Toyota F1 Team.
D'ailleurs, en cadeau, j'enverrai quelques... Je donnerai à Dino quelques photos qu'on pourra mettre sur le site du SAV.
Ah, merci. D'ailleurs, il faudra qu'on reparle du site. Il y a plein de choses à dire, il se passe beaucoup de choses sur le site.
Ouais.
Enfin, pas vraiment, mais presque.
Allez, finissons cette course.
Là, sur la fin, on peut parler d'Adrien Sutil.
Dernier.
Qui se classe dernier. Et puis là, c'est le bal des abandons. Vous voulez revenir sur Sutil, non?
Bah, Sutil, c'est bizarre, il est devant Physico et au final,
il part 15e.
Il se fait malmener quand même, hein.
Ouais.
Bah il maintient sa position, il se dispute avec Fisichella jusqu'au 10e tour.
Même
puis,
pas, à peine, ouais.
Ouais, 9e. Puis après, il chute.
Il n'y a pas eu un pépin pour Sutil?
Je sais pas.
Je crois pas.
Parce que quand même, c'est. En plus, Monaco, enfin, c'est un circuit qu'il aime bien. Enfin, l'année dernière, il était plutôt bon.
En même temps, Sutil est parti en super tendre. Est-ce que lui aussi, comme Vettel, il n'aurait pas eu...
Peut-être qu'il a perdu beaucoup de temps au départ et puis que...
Ah, lui, c'est parce qu'il est rentré au stand au 11e tour.
Ah, c'est peut-être ça. Hein. Et après, il a dégringolé.
Voilà.
Donc après, on passe à la liste des abandons. Kazuki Nakajima qui a abandonné sur accident au 76e tour. Alors ça, c'est quand même Kazuki, c'est génial.
Ouais.
Pendant 76 tours, on se dit, oui, il va le faire, il va le faire. Il va finir cette course. Et clac. Oh non, à 2 tours.
Je crois que c'est la seconde fois cette année en plus qu'il fait ça. De vraiment merder, mais tout près de la fin.
Mais c'est dans le dernier tour même. Hein.
Ouais, 76, c'est le dernier tour.
Ah, moi j'ai 78, moi. C'est le dernier tour. Hein.
Ah, peut-être. Question au top pop. Comme ça, on aura la réponse. Mais ça dépend où tu regardes. Moi, sur StatF1, il y a écrit 76.
Moi, StatF1, il y a marqué 78. Dans le résumé de la course, il y a marqué 78.
Ah d'accord, bon, on va faire confiance au résumé de la course alors.
Alors, peut-être que c'était le 78e tour pour les leaders.
Voilà, je pense que c'est ça.
Ah oui, ça doit être ça.
Et c'était son 76e tour.
Parce que je me rappelle, moi, il abandonnait, puis on commençait à voir comment s'appelle, Button, qui était dans le dernier tour.
Ouais, non, mais c'était ça.
D'ailleurs, il est classé, malgré.
Voilà.
Pour lui, c'est son 76e tour. Il avait deux tours de retard, quoi.
Ensuite, autre accident, et Kimi Räikkönen au 51e tour.
Beau carton.
Ouais, beau carton. Ouais. Bah, le quasiment le même que Rosberg l'an dernier.
Oui.
C'est à la piscine, je crois.
Oui.
Qui tape, il tape le mur. Bon, bah voilà. Ouais. Quasiment tous les ans, on en a un comme ça. C'est tombé sur Kovalainen.
Au même endroit où Massa a failli, en qualif, a perdu le contrôle de sa voiture.
Ouais.
Mais c'est dommage, hein, parce qu'il a l'opportunité, entre guillemets, de marquer des points pour McLaren ce week-end. Alors qu'il y a des rumeurs comme quoi Mercedes aimerait prendre Rosberg, on se dit quand même qu'il a un peu raté le coche. On a Robert Kubica, tu l'as dit, abandon pour raison de frein. En même temps, on n'avait pas vu.
Il doit avoir les boules, lui. Quand il se rappelle de son année dernière.
Ah ouais.
Oh là là, c'est terrible. Hein.
Tu sais que.
Je te dirais Hamilton aussi, hein, mais.
Oui. Ouais. Hamilton, au moins, lui, il a été champion du monde.
Voilà.
Oui.
Il a entre guillemets à notre consolation. Mais apparemment, il remange des pâtes.
Ah.
Il avait arrêté puisqu'il fallait perdre du poids. Ça fait 2 ans qu'il perd du poids. L'année dernière, ça marchait, donc il a arrêté de perdre du poids. Il a continué à arrêter. Il a continué à perdre du poids. Et là, cette année, apparemment, il a dit non, maintenant, il remange des pâtes. De toute façon, ça sert à rien. Donc, on verra l'année prochaine. Donc il y a de fortes chances qu'on retrouve un Robert Kubica un peu plus comme on l'a vu au début, quoi. Sébastien Vettel qui se qualifie 15e. Bon, de toute façon, il n'était pas vraiment rentré dans le rythme de la course.
Non, il se qualifie pas 15e.
Vous m'avez compris, voilà. Ils sont taquins.
C'est pas qu'il est pas rentré dans le rythme de la course, c'est qu'il a flingué très rapidement ses pneus.
C'est après, week-end de merde, hein, pour Vettel.
On en reviendra.
Attends, quoi.
On y reviendra.
Ah, ok, on n'a dit plus rien. Et puis, donc, dans les deux derniers, Nelson Piquet et Sébastien Buemi. On a parlé de l'accident de tout à l'heure. Pour une fois.
C'est pas de sa faute.
Voilà. C'est pas à 100% de sa faute, c'est juste à 5% de sa faute parce qu'il a freiné trop tôt. On va essayer de donner un peu de crédit à ce que dit Buemi. Donc voilà, un beau petit accrochage quand même. Hein.
Et tout ça, c'était à Saint-Devot. Donc on en profite d'ailleurs pour saluer Semarine, qui est de
CNF1,
qui est commissaire de piste à Monaco et qui s'occupait des drapeaux là-bas, à Saint-Devot. Donc elle a dû avoir du boulot avec cet accrochage.
Ouais, mais elle a pu
arrêter son petit drapeau jaune. Et c'est même qu'elle a eu une dédicace.
Ah ouais, un petit bisou. Faut qu'elle nous raconte, envoie-nous un mail. Dis-nous ce qui s'est passé avec. Est-ce que la rumeur est vraie? Est-ce que toi et Piqué, ça y est, c'est fait? Voilà comment on lance un truc sur le net. Non mais vous imaginez, dans 2 jours, il y a écrit oui, Nelson Piqué s'est entiché d'une jeune commissaire sur le bord de la piste à Monaco. Il file désormais le parfait amour. On passe tout de suite au fait marquant de la course.
Moi.
On peut peut-être.
Ah oui, on va peut-être revenir sur. Parce que pour une fois, il y a beaucoup de monde qui a répondu.
Ouais.
Faut peut-être que j'aille sur le site.
Comment j'ai pu faire un score aussi faible alors que fondamentalement c'est le même truc que lui?
Mais c'est ça le truc.
Non, c'est une concurrence.
Vous avez pris des trucs qui se sont fait concurrence.
Ouais, enfin, t'en as pas vraiment profité.
Alors, question était, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Espagne? Vous avez été 19 à répondre, et nous vous en remercions.
Bravo!
53% d'entre vous ont répondu Massa désemparé qui demande s'il doit économiser son essence. Donc bravo Enzo. Deuxième, je sauve, entre guillemets d'honneur. Avec 26%, la stratégie de Brown qui détrône Barrichello de la plus haute marge du podium.
Est-ce que tu sais pourquoi? T'as
pris? Pourquoi?
Parce que c'est un parti pris ce que t'as dit.
De quoi?
Ton fait marquant est un parti pris. Il y a toi qui penses que Barrichello a été privé de sa victoire et qu'on a privilégié Button.
Oui, c'est vrai.
Et en fait, les gens ne t'ont pas suivi. Et c'est pour ça que tu n'as pas... Que les gens
ouais, mais quand même... De... Ah. même si on avait des positions différentes sur ça, on s'accordait quand même à dire que il y avait quand même un fait stratégique derrière.
Oui, oui, il y a un fait stratégique.
Ah voilà.
Mais dans ta formulation qui dit qui prive Barrichello.
Oui, 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 c'est vrai.
Là encore, tu te fais avoir, toi, dans ta formulation.
Non, mais je l'assume. De toute façon, non, c'était vu d'avance que c'était Massa qui allait gagner, pour une fois. Et donc, Shinji qui, avec 21%, a réuni autour de le problème d'essence de Massa. Bon, si on... Parce que, bon, vos deux réponses se ressemblaient. Hein, si on rassemble les deux, ça fait quand même 74%. Donc, trois quarts de nos visiteurs donc, qui ont pensé que c'était l'incident de Massa avec son essence. En même temps, c'est vrai que c'était un petit peu le seul truc intéressant dans cette course.
Alors, le fait de la course.
Je crois que Shinji voulait en parler.
Il va en parler en premier.
Je veux gagner, moi. Je veux gagner.
Ah, c'est jamais moi, la vache.
Le moment. Splendide dépassement de Rosberg sur Massa.
Le dépassement de Rosberg. Alors, attention, là, Enzo va nous dire, oui, le passage de Rosberg sur...
Donc, le fait de la course, tu veux que je te dise? Pour moi, c'est Button à pied qui court frais comme un...
C'est plus la course, ça, c'est après la course.
C'est son choix, s'il veut perdre. Attends,
c'est pas toi qui nous parle des fois de la FIA dans les drapeaux rouges ou tout ça. C'est pas de la course non plus, alors je fais ce que je veux. C'est Button qui court pour rejoindre le podium parce qu'il s'est garé avec ceux qui finissent au pied du podium. Et moi, je trouve ça génial parce que il était frais comme s'il sortait de sa douche, quoi. Quand Kimi à côté qui était tout rouge, bon, c'était peut-être là votre cas. Mais franchement, j'ai trouvé cette image vraiment, vraiment géniale parce qu'il était, on voyait qu'il était heureux d'avoir gagné.
En plus, ça faisait.
Et tu voyais que c'était vraiment un grand sportif et un beau sportif, quoi.
Puis ça faisait genre quand même les mecs remettent ça quand vous voulez.
Et ça faisait tour d'honneur, quoi. Franchement, je pense qu'il aurait pu faire le tour complet, il l'aurait fait.
La piste, ça fait 3 bornes quand même.
Eh ben moi, je vais pas faire original. Hein. Je dirais le fait de course, c'est le. J'ai hésité avec Piqué. Piqué qui abandonne, mais que c'est pas de sa faute. Mais je dirais c'est le retour en forme des Ferrari, la belle course des Ferrari.
Normal.
Voilà. Là, ça va être serré, hein.
Non, je vais gagner.
Bon voilà, donc je répète, on vous mettra un sondage sur le nouveau blog.
Ça fait 3 fois que tu changes de site, on perd à chaque fois 10 000 auditeurs.
Non mais, faut que j'explique. Au départ, moi je voulais un site sur notre serveur privé. Voilà, pour pas être dépendant d'un blog qui nous accueille et que c'est très bien et voilà. Mais il y a de la pub, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut non plus. Là voilà, moi je voulais un vrai site qui aille de la gueule pour un peu nous vendre. Et puis je voulais que vous auditeurs vous puissiez nous écouter directement depuis l'article, ce qui n'était pas possible avec le précédent site. Je voulais qu'on puisse évoluer le site sans avoir changé d'adresse, etc. Donc là c'est un changement d'adresse, ce sera le dernier. Donc vous changez vos favoris.
Jusqu'à la prochaine fois.
Non, ça y est, alors, c'est bon, celui-là je le paye, alors hein, celui-là je ne le change plus. Donc l'adresse c'est www.savf1.fr.nf.
Ça veut dire quoi NF?
Norme française. De... Nos futurs. Donc voilà. Ouais, comme maintenant on a donc on va voir, je pense, vous verrez la différence. On a quelque chose d'un peu plus, je pense, joli.
T'es dans la continuité.
Voilà, c'est dans la continuité.
Tout en étant différent.
Mais voilà, on va essayer de vous proposer quelques petites rubriques. On a déjà quelques idées. Vous aurez des quiz. On essaiera de mettre de temps en temps des quiz auxquels vous pourrez répondre. Il y en aura un d'ailleurs assez prochainement, le 7 juin. On mettra aussi en ligne une toute le nouvelle
chiffre,
rubrique.
Le chiffre inutile de Shinji, ça serait bien.
Ah oui, nous passe une petite rubrique, ouais, tiens, comme
c'est
ça.
C'est vrai qu'il faudrait que je les écrive.
On vous mettra aussi un petit article qui passera tous les lundis soirs, dont je vous dis pas grand chose.
Je crois qu'il y a la météo.
Tous les lundis, vous.
La météo de la semaine.
Et puis, on aura aussi prochainement je sais pas comment je vais mettre ça, mais ce sera une. On vous demandera de voter pour un pilote, et voilà. Donc, à suivre sur le site du SAV, www.savf1.fr.nf. Sans oublier, bien évidemment, le site d'Enzo, www.enzo.com, et puis le blog inutile.
EnzoF1.com.
Oui, EnzoF1.com. De toute façon, tout le monde le connaît, ton site.
Donc, ouais, oui. Ils ont du mérite, parce qu'en ce moment, ça bouge pas beaucoup, mais je vous promets, et je tiens à le dire, et je prends Shinji et Dino en témoin, je vous promets qu'il va bouger.
Oui, mais il faudrait déjà que tu mettes les textes que je t'écris.
Lesquels?
Là, je t'ai écrit un super texte.
Mais
hein.
Non.
Ah, tu veux le garder pour le bouquin, toi?
Ah, bah oui.
Et puis donc le blog inutile de Shinji, dont Shinji, tu peux rappeler l'adresse.
Donc 103W, donc c'est shinji.over-blog.fr. Et ça
Voilà.
parle d'à peu près tout sauf de F1.
Voilà.
Donc a
Bon.
priori, ça ne doit pas du tout t'intéresser.
Non, pas forcément. On apprend plein de trucs, hein.
Comment il s'appelle ton bonhomme déjà?
Allumette.
Allumette.
Si vous voulez voir un site avec des dessins moches, c'est ma spécialité.
On passe à notre classement pilote de la course, notre podium à nous.
Ah, j'ai préparé.
Alors, qui qu'on met en tête? Vettel.
Non.
Button.
Oui, Button,
Ouais,
oui, ça me semble.
simplement, ouais.
Donc on donne 5 points à Button. En deuxième,
Nico.
Nico Rosberg.
Pour ses déplacements, ouais.
Et tu mets qui en troisième?
Kimi.
Ouais, bon, je sais pas
Moi,
pourquoi. Pas pourquoi, moi j'aurais inversé. Ouais, pour son déplacement, ouais, Nico, ouais.
Allez, ouais.
Nico, ses déplacements quand même, ils
Ouais,
sont
ouais.
gonflés,
Même,
quoi.
ouais. Donc Vettel va s'envoler dans notre... Enfin, Button va s'envoler dans notre classement, comme dans le vrai
Bah,
classement.
il était pas si en tête que ça, hein,
Ah non,
non.
il avait que 11 points. Ex aequo avec Vettel.
Voilà.
Donc, j'actualise.
Et
Ah, Pierre.
Rosberg et Kimi n'y étaient pas.
Ce qui nous fait donc au classement, on a Button qui prend le large à notre classement avec 16 points. Vettel qui est deuxième avec 11 points. Glock et Barrichello qui restent troisième ex aequo avec 5 points. Weber qui est cinquième avec 4 points. Alonso, Massa qui sont sixième ex aequo avec 3 points, rejoint
Et
cette semaine
Rosberg.
par Nico Rosberg,
Rosberg.
effectivement. Et puis un point pour Bourdais, Kubica, Soutil et Raikkonen. Voilà, le classement sera actualisé sur le blog, hein, rubrique le classement du SAV.
C'est-à-dire 11 pilotes quand même.
Ouais, déjà, ouais, ça fait pas mal.
Sachant qu'on en donne que 3 à chaque fois. Ouais,
Ouais, et puis il manque Lewis. Il manque plus qu'un champion du monde. Par deux avec
il
Schumacher.
manque Piquette.
Bon, mais ça m'étonnerait qu'il lui soit un jour.
Ouais.
Je sais
Voilà,
pas.
il a vraiment intérêt à faire un bon truc, hein, pour être dans
Un
ce classement.
bon Grand Prix d'Allemagne comme l'an dernier.
Ouais, non, je pense pas. Au classement des championnats, enfin au classement des championnats, au championnat, nous avons
Premier, donc Jenson Button avec 51 points. Deuxième, son coéquipier, Rubens Barrichello, 35 points.
On peut quand même dire un Button, c'est 51 points sur
60 points positifs.
non, 5
Non, 55.
55.
55.
Pas 60 plus s'il y avait eu 6 courses complètes quand même.
Voilà, donc c'est 55.
51 sur 55, oui.
C'est quand même énorme, hein. 55 points possibles, 51 points marqués, c'est quand même gros, quoi.
Donc Barrichello, 35 points. Vettel, qui perd beaucoup hein, sur ce week-end, 23 points. Il a
Et
203
déjà.
points que Button. Quatrième, Marc Weber, 19 points et demi. Cinquième, Jarno Trulli, 14 points et demi. Sixième, Timo Glock, 12 points. Septième, Fernando Alonso, 11 points. Huitième, ex aequo, les deux autres champions du monde, Kimi Raikkonen et Lewis Hamilton, avec 9 points.
Ouais, mais nous on est devant, on a un podium.
Ouais, oui, on est. Massa, 10e avec 8 points. Nico Rosberg, 11e avec 7 points et demi. Hetfeld, 12e, 6 points. Kovalainen, 13e, 4 points. Buemi, 14e, 3 points. Et Bourdais, 2 points, 15e.
Donc c'est dire que pour le titre, même s'il y a encore du suspense, c'est quand même
Ouais.
bien bien parti.
Ou mal parti, au contraire. C'est
Ouais.
bien mal parti.
Ouais. Au classement des constructeurs.
Donc, premier, Brown GP. 86 points.
Ouais.
Deuxième, Red Bull Renault, 42 points et demi. Alors c'est pareil, hein, Brown a deux fois plus de points que son poursuivant.
Ah, ça, là, 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 là. Bon,
Toyota.
le petit constructeur, il est joué, hein. Ça y est.
Ah oui, là.
Bah, avec
Toyota.
trois doublés en six courses.
Là. Ils ont fait autant de doublés que Ferrari l'an dernier.
Ouais.
Voilà. Et ils en sont à la
Et
séance, quoi.
alors, on s'est amusé. J'étais avec un pote pendant la qualif du Grand Prix. Bon, on n'avait pas encore le résultat, mais on avait compté rapidement que les Ferrari faisaient un doublé à chaque fois jusqu'à la fin de l'année et que Brown faisait troisième et quatrième. Ça pouvait encore passer pour Ferrari.
Wow.
Mais tout juste.
Hey, franchement, les gars de Maranello, vous faites pas de conneries sur les Grands Prix, hein.
Voilà.
Pas d'histoire de boulon, pas d'histoire de ravitaillement, etc. Vivement l'année prochaine d'ailleurs que les ravitaillements soient finis.
Ça sera encore pire, hein, parce que changer des roues, c'est surtout souvent au changement de roue qu'il y a des problèmes. Et, ouais. Et tu vas voir ce que c'est qu'un ravitaillement en 4 secondes. Alors à l'époque, ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait pas de limitation dans les stands, donc ils arrivaient comme des bourrins et on changeait ça à fond. C'était vraiment impressionnant, les ravitaillements. Voilà, c'était ma séquence nostalgique.
Merci Papy Ezo. Donc tu disais 3ème Toyota
26,5 points.
C'est quasiment le quart des points de Brawn.
Oui. 4ème, grosse remontée Ferrari. Tiens. 17 points.
Bah, il marque 11 points.
Voilà. 5ème McLaren 13 points. 6ème Renault 11 points. Williams 7,5 points. BMW 6 points. Toro Rosso 5 points. Et comme d'habitude, Force India 0.
C'est quand même, je me rends compte là au niveau du classement des constructeurs, c'est quand même la 4ème fois qu'il y a 2 doublés dans la même course. C'est-à-dire que le premier et le deuxième sont de la même équipe et le troisième et le quatrième sont de la même équipe.
Ouais.
En Australie, c'était Brawn qui était premier doublé, puis Toyota qui était 3 et 4. Et puis on avait eu Red Bull doublé en Chine et puis Brawn Grand Prix derrière. Et on avait eu en Espagne le doublé Brawn avec le doublé Red Bull derrière. Puis là, c'est doublé Brawn avec le doublé Ferrari derrière.
C'est vrai que les différences entre les voitures sont très marquées cette année.
Les différences entre coéquipiers sont assez serrées, puis entre les voitures sont assez marquées au final en course. Donc voilà, on passe à la rubrique tant attendue de tous nos fans, de tous nos auditeurs, le drive-thru of the weekend.
Bon, je vais t'aider, je vais répondre en premier.
Ouais.
Et une fois n'est pas coutume, mon drapeau rouge, c'est Vettel. Et
pourquoi donc ?
C'est Vettel, parce que cette course m'aura donné l'occasion de lui trouver un nouveau point commun avec Schumi. Parfois, il résiste pas à la pression. Et pour moi, il a eu son problème de pneus et je pense que ça, il s'est énervé après et il s'est foutu dans les pneus. Il est sorti bêtement à la rascasse.
Mais en plus, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'il est très encore énervé. Hein.
Ouais, ça fait les deux dernières fois, c'était parce qu'il était bloqué derrière Trulli à Bahreïn et derrière Massa en Espagne. Mais là, bon, bah, il a eu son problème de pneu et après, il trouve que ça fait un nouveau point commun avec Schumi, quoi.
Mais en même temps,
son manque de résistance à la pression, parfois.
Franchement, moi, c'est des caractéristiques de champion qui sont extrêmement exigeants. Vettel, il a compris dès Bahreïn que s'il remontait pas vite devant Button, c'était mort. Il faisait la gueule à Bahreïn alors qu'il était deuxième, il aurait dû être content, mais il faisait la tronche. Il faisait encore la tronche en Espagne. Là, on n'a même pas pu voir sa tronche parce que je pense qu'il a dû tout de suite rentrer au stand et puis se cacher. Voilà, donc il s'énerve. Le seul truc, c'est que ça se traduit en course et que c'est pas là. Par contre, pour le coup, c'est pas positif, quoi, parce que là, sur la course, il perd des points un petit peu tout seul et bêtement, quoi.
Ouais.
Parce que c'est vrai qu'à la limite, bon, ils le font rentrer puis ils se récupèrent après. Bon, il récupère 3-4 points, mais c'est déjà 3-4 points, quoi. Tu joues le championnat. Quand même, ne serait-ce que pour défendre ta position, alors que là, il se met direct en confrontation avec les pilotes Ferrari qui vont sans doute remonter. Quand tu commences à regarder tes rétros, tu regardes plus devant. Et c'est ce qui risque de lui arriver si Ferrari confirme son bond en avant. C'est ce qui risque de lui arriver assez rapidement parce qu'au classement, il va vite se faire, il va vite voir poindre l'ombre de Raikkonen ou de Massa. Vous avez remarqué, hein, j'ai dit Raikkonen ou Massa, j'ai pas dit Raikkonen et Massa. Parce que je pense que Ferrari cette année mettra pas ses œufs dans deux paniers différents.
Ouais.
Parce qu'ils vont dire voilà, on en prend un et puis l'autre il se concentre sur l'année prochaine.
Non, ce sera pas au contraire.
Ouais.
Voilà, donc c'était mon drive-through of the race.
Moi, c'est un drive-through à l'intention d'organisation.
Ah oui, c'est vrai que ça m'avait choqué.
Voilà. Alors vas-y, répète ce que tu m'as dit cet après-midi.
Donc tu m'as dit l'organisation, je t'ai dit l'organisation du meilleur Grand Prix du monde, l'organisation avec les meilleurs commissaires de course de la planète. C'est ce que je t'ai répondu ?
Oui. Et je vais m'expliquer. Donc la course est passée, puis on est arrivé au moment du podium, et puis on l'a dit, hein, il y a Button, déjà premier petit couac. Bon, la voiture de Button est dirigée vers la pit lane, alors qu'il doit être sur le circuit. Bon.
Il s'y dirige tout seul.
Oui, oui, il est pas habitué, mais en même temps, on lui dit rien. Il y a personne qui se met sur sa route, quoi. Genre avec, non, Jensen, puis qui se fait écraser, quoi. Il pourrait, quoi. Non, en fait, moi, c'est juste derrière. Les mecs sont tombés sur le podium. Et je sais pas si vous avez remarqué un truc qui a changé à Monaco sur le podium. Y a rien qui vous a choqué, vous?
Non.
Ils nous ont retiré les marches, ces salauds.
Mais t'es non. sûr qu'elles n'y étaient pas, Emma?
Avant, on, a, avant les on avait les mecs, ils étaient sur, en haut de marche, et ils faisaient, ils avaient la coupe. Oui, oui, je te ressortirai des photos, ils avaient des marches. Et là, ils nous ont fait une petite plateforme de merde où il n'y a quasiment pas de nivellement entre les pilotes.
Hein. Il n'y a pas.
Je te jure, je vais ressortir des photos de Coulthard avec sa petite cape de Superman.
Oui, oui, il y a des marches.
Et il y a des marches. C'était une petite plateforme de merde, de rien du tout, qui donnait directement sur le circuit. Il y avait pas de marche. Et moi, j'ai trouvé ça nul. Voilà, j'ai trouvé ça nul. Voilà, j'ai trouvé le caractère, ce qui donnait le caractère. Non mais
il est pitoyable, toi.
Non mais je sais pas vous, mais moi, ce qui donnait le caractère de Monaco, c'est que la photo du podium était belle parce que ça faisait un podium à l'ancienne où les mecs, ils étaient sur les marches ou sur un truc à part.
Puis pas dans là, c'est la loge princière, quoi.
Non, mais voilà,
parle de podium à l'ancienne, toi qui connais rien à l'histoire de la F1, quoi.
Non, mais c'est pas rien connaître, mais moi, je m'en fous des anecdotes, mais quand même, sur
les photos. Des anecdotes, je drive fou sur une plateforme.
Non, mais je vais vous ressentir vos drive fous du début de l'année, puis on va voir ce que ça vaut vraiment mon drive fou sur la plateforme. Moi, je vous parle en tant que fan qui, voilà. Moi, c'est, je trouvais que c'était la belle photo. On savait au moins quand on regardait le podium où on se trouvait. Généralement, d'habitude, quand on regarde les podiums, il y a cette espèce d'affreux truc publicitaire derrière. On est sur les mêmes marches. On sait, tu regardes la photo, tu sais pas où t'es sur le podium. Là, au moins, à Monaco, t'avais une idée de là où t'étais sur le podium.
Bah, tu le sais toujours, il y a Stop de Monaco derrière.
Oui, mais non, je te jure, maintenant, c'est dans une espèce de boîte en plastoc. Je mettrai la photo dans l'article, je vous jure.
La photo avec Superman, t'as les trois marches, mais derrière, t'as ta boîte en plastoc, ça s'appelle la loge princière.
Mais ça, on s'en fout, mais la loge princière, elle était sur le parvis. Là, je vous jure, c'est une boîte en plastoc qui est posée quasiment sur la piste, et les mecs, ils sont dedans.
J'ai sous les yeux le podium avec David, avec sa cape. Il n'y a pas de marche.
Mais non, parce que c'est pris d'en haut. Là.
Non. Il n'y a pas de marche.
Mais je vous dis, ça fait des années que c'est sur des marches.
Mais je l'ai, là.
Bah, vas-y, montre-en à moi.
Monaco 2006 sur Staff F1.
Derrière Flavio Briatore, il y a un pylône blanc. Et ben, c'est le bout de la boîte en plastoc, comme
non,
tu
mais,
dis.
Arrêtez de me prendre pour un con. Je sais que c'est la loge princière. Non, sérieusement, je sais que c'est la loge princière, c'est tout le temps la même. Regardez cette année, c'est une boîte en plastique, il n'y a strictement rien, c'est tout blanc, il n'y a strictement rien. Non ? Bon, bah c'est pas grave, on passe au suivant. Allez, pas seulement la vous gonfler, là.
Moi, je trouvais que cette année, ça manquait les marches, quand même.
Salaud. Je vais les tuer. Ils se foutent de ma gueule sur mon...
C'est vrai que c'était joli, quand même, les marches. Alors, on va mettre un drive-through à celui qui a fait la big cut là, mais pas à toute l'organisation quand même.
Oui, à l'organisation, c'est comme ça. Mais quand vous mettez des drive-throughs à Ferrari parce qu'ils ont oublié de mettre de l'essence, je vous dis rien. Alors, hein, vas-y, Shinji, à toi.
Moi en plus, c'est un drive-through classique, hein. C'était pour Toyota tout simplement.
Ah, le truc vachement original. Ah.
Mais après, moi, j'ai dit dès le départ, j'ai dit que ça serait classique.
Ah, c'est franchement nul, hein. Ah,
c'est la différence, c'est que je sais que mon drive-through est pas terrible.
Allez, vas-y, fais-nous de 3 quarts d'heure sur un drive-through de merde. Allez, hop, vas-y, parle-nous de Toyota. Allez.
mais je sais déjà que je vais pas faire 3 quarts d'heure, parce qu'en plus, on l'a déjà évoqué, c'est le fait que bah, Toyota régresse. Là, il a les boules, Yannick.
Non, ça m'énerve. Vous avez pas compris mon émotion devant cette absence de marche. Voilà. Vous avez pas compris mon émotion. Voilà.
Écoute, moi, j'ai pas de marche dans ma maison. Genre, j'y suis peut-être moins sensible que toi.
Voilà. Moi non plus, j'en ai pas. Mais là, je vous laisse. Allez-y, parlez, parce que là, je vais vous trouver l'image et je vais vous montrer que c'est moche. Voilà, je vais vous montrer que c'est moche. Et justement, il va pas y avoir une seule image de face de ce podium de merde. Donc oui, Shinji, Monaco, allez, Toyota.
Mais on l'a déjà évoqué, le fait qu'il régresse. Voilà.
Alors tu veux faire un drive-thru, t'en as déjà parlé. Franchement, je vois pas l'intérêt. Alors, moi, je fais un truc original, puis vous faites des trucs, vous répétez. Ah, vous m'avez contrarié, là, je vous jure.
Ah, on le sent pas, pourtant.
Allez, Toyota, là. Allez, je suis dit, enchaîne.
C'est le drapeau de Monaco avec le bas en blanc et le haut rouge avec l'armoirie au milieu, au contraire.
Mais c'est laid. Voilà, c'est juste un goût personnel, c'est laid. Voilà, c'est tout.
Non, mais tu...
Bon alors, Toyota, on sait toujours pas pourquoi. Bah oui, on sait, puisque c'est pas original, mais quand même, vas-y, raconte.
Ah, mais là, ça n'a rien à voir avec les marches.
Mais oui, mais enfin, c'est l'impression, moi, j'ai juste qu'il n'y avait plus de marche.
Voilà. Ouais, non, mais faut comprendre que le nouveau prince à Monaco, donc on veut changer les habitudes, et voilà, écrit directement à Albert, quoi.
Ouais, mais c'est moche, ben voilà, mais je dis ça.
Ça fait pas un an qu'il est là. On parle pas de transformer Monaco, on parle juste d'une cabine à la con.
Mais oui, bah oui, mais je trouve ça moche. J'y peux rien. Je trouve ça, ça fait partie du Grand Prix. Par exemple, je dirais que à Indianapolis, ils ont un super podium parce qu'ils mettent la voiture sur un truc qui se lève. On montre aussi la voiture sur le podium. Je trouve ça super chouette et ça fait partie du Grand Prix. Là, Monaco, on est quand même dans un lieu qui est glamour, etc. Avant, on avait un joli parvis de la loge princière avec les armoiries. Ça faisait très traditionnel. Et là, on a un truc en plastique et en verre et je trouve pas ça beau. C'est seul
ce truc en plastique et en verre, c'est aussi la loge princière.
Mais oui, c'est la loge princière, mais c'est moche, c'est tout. Vous me forcez en plus à le revoir, ce podium, c'est terrible. Ah, c'est laid. Bon alors, Toyota, on attend toujours la Toyota.
Mais on l'a évoqué, Toyota, c'est parce que c'est des crétins qui, quand ils font des mauvaises modifications sur leur voiture, au lieu de les enlever, ils continuent à les mettre.
Ils ont peut-être jeté les anciennes pièces.
Ah bah, vu comment ils ont l'air d'être pas très intelligents, c'est possible.
Oh là là, c'est plus le chiffre inutile de Shinji, c'est le drive-thru inutile de Shinji, là. C'est un drive-thru dont on a déjà parlé pendant la course.
Mon drive-thru serait pas extraordinaire.
Bah ouais, bah là, il est déjà.
Mais oui!
Je confirme.
Il m'a donné son vrai drive-thru. Il trouvait qu'on voyait pas assez les bateaux avec les nanas qui étaient de bronzer dessus.
Donc, on a fini avec les drive-thru. Je pense qu'on a fait.
Je pense.
On peut s'en faire un deuxième.
Non, celui-là, il est très... Alors, un avant-goût du Grand Prix de Turquie. Et là, je pronostique en premier.
Ouais, vas-y.
Je vais dire Massa.
Je sais pas, du moment qu'il y a un beau... Que le podium, les marches du podium soient jolies. Ah merde, t'as le drapeau turc, il est rouge. Bah, on va encore avoir le drive-thru.
On s'en fout, on aura les podiums. Les
sur le front rouge du podium. Non, mais Felipe, il a gagné quand même souvent là-bas, mais Vettel.
Je vais encore être très original. Button.
Ah merde, on avait oublié Button.
On l'oublie tout le temps. Et...
Ouais, mais c'est pas courageux. On va finir par interdire Button dans les pronostics. Eh ben, on va passer tout de suite au concours top opposition, si vous le voulez bien. Et puis, fait extraordinaire, figurez-vous donc, on a eu deux réponses.
Waouh.
Hey.
Attends. Déjà, on va préciser que notre gagnante de la dernière fois n'a toujours pas reçu.
Oui, on est désolé. Mais en même temps, son pilote préféré est Alonso, donc elle le mérite.
C'est normal que ce soit pas rapide.
Voilà, hein, forcément.
Au pas s'attendre à ce qu'elle se plaigne pas, ça aurait été... Les Wiz, ça serait dans un mois. Non, je plaisante, je fais ça cette semaine. S'en fout.
Merci Enzo.
Mais en plus, comme ça, elle en aura deux.
Ah, chouette. Alors, cette semaine, on a deux bonnes réponses. On a Maël qui nous a répondu une nouvelle fois. Et on a Kevin qui nous a répondu pour la première fois. Mais à quelle question nous ont-ils répondu? Et pour cela, il faut d'abord demander à Shinji.
Concours. Position de l'émission d'Espagne était quel invité de marque était présent tout le week-end dans le stand Brown Grand Prix? Et la réponse était un Terminator. Alors on pouvait aussi dire un T800, je crois, c'est ça?
900?
Non, c'est un T800.
Un T800, c'est ça?
À ne pas confondre avec le T1000.
Ouais.
Ceux qui liront le bouquin 2009 comprendront.
C'était un beau Terminator et puis. Sur l'aileron arrière, il y avait Terminator Salvation, le nom original du nouveau Terminator qui sort le mois prochain.
Alors, je prends une feuille que je coupe en deux, puisqu'on a deux bonnes réponses.
Oh, ça c'est évolué.
Quand on aura 830 réponses, tu vas être dans la merde.
Je mets sur une feuille un numéro, le 1, et une autre feuille, je mets le numéro 2. Et d'accord. Et je mets un prénom sous chaque numéro. Et attention. Ah ouais, un tirage au sort, c'est pas facile à faire à la radio.
Ouais.
Et donc, on va demander à Shinji, tiens, quel numéro as-tu tiré au sort entre 1 et 2?
Attends, je me concentre.
Et je me jette à l'eau.
Ah. Je réfléchis, je me concentre. Si c'était au loto, ce serait le 18. Mais comme nous sommes dans le SAV, c'est le numéro 2.
Et c'est Kevin qui l'emporte. Un magnifique magnette de la future collection du SAV de la F1, puisqu'on va faire une collection de magnettes spécifiques au SAV de la F1, personnalisées pour chaque Grand Prix. Donc bravo Kevin, tu recevras ton magnette prochainement, hein, quand il sera fait, voilà. Mais on va essayer de faire ça le plus vite possible. Et puis, qui dit nouveau gagnant, dit bien évidemment nouvelle question. Et pour cela, on retrouve tout de suite Enzo.
Venez d'écouter le SAV de la F1 sur le Grand Prix de Monaco. Répondez maintenant à cette question pour gagner un magnifique cadeau. Send the Formula One SAV program about Monaco race. Now answer the question to earn a beautiful and quippy present. Avete appena ascoltato il SAV della Formula One sul Corsa di Monaco. Rispondere a questa domanda per vincere un magnifico regalo. Da canifiera SAV for chi canifera Monaco. Tu che trotto, ti dici caca di no. Io gana buona Formula One al becca a Monaco. La question est la suivante. Quelle modification a été apportée au casque des pilotes McLaren? Répondez tout de suite en laissant votre réponse sur le site du SAV.
Ah, ça c'est best-of de fin d'année. Merci Enzo.
De rien.
Donc, on vous répondait sur il y aura le formulaire contact, hein, ça n'a pas changé, hein. Le site change. Donc, vous allez sur www.savf1.fr.nf.
Et il y a une question subsidiaire si vous avez reconnu les deux dernières langues.
Vous avez gagné un livre. Et là, il y a un mec qui répond. Ah, donc, et tu parles beaucoup de langues, hein.
Ouais.
Je suis impressionné. Hein.
Je sais pas ce que c'est les deux dernières.
Ah bon, on risque rien. Alors vous gagnez deux livres. Bon, ça c'est sur cette note mémorable dans l'histoire du SAV. On va vous donner rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix de Turquie. On travaillera aussi un petit peu nos drive-through. Enfin, je travaillerai mon drive-through. Là, comme j'ai pas vraiment vu la course, j'ai fait avec ce que je pouvais. Je suis désolé. Je remercie particulièrement Shinji et Enzo de leur présence. Et puis, voilà, rendez-vous dans 15 jours.
Au revoir.
Salut à tous.
Après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.